Podcast.com. Essaye ça.
Le Crachoir, épisode 106. Franchement, Jean-Yves, et vous saurez pourquoi après la pause qui va suivre, mais avant, comme je fais toujours depuis le début de cette pandémie, je vais m'enquérir sans plus tarder de l'état de santé de mon co-animateur qui est à Montréal, la grosse ville contaminée. Salut Martin.
Hey, salut Frank. Je vais bien, je suis en... Ma santé physique est A1. Ma santé mentale, ben les gens pourront en déterminer parce que, écoute, là, il est temps que ça finisse. Faites qu'il se passe quelque chose. Tu sais, n'importe quoi, là. Tu sais, je suis rendu là. Tu sais, je suis plus à...
Prise d'otage, n'importe quoi, là.
Non, mais j'encontre des principes. Je questionne encore beaucoup de choses de que nos gouvernements ont décidé, puis tout ça, puis c'est correct. Mais là, tu sais, j'ai juste envie qu'il se passe quelque chose. That's it, là. Tu sais, n'importe quoi, là. Rien de dramatique, bien sûr, mais là,
tu sais... C'est monotone.
Ouais, là, tu sais, écoute, là, j'ai tout fait les pro, tu sais, là, toutes les sbires de la profite du temps, puis tout le kit, j'ai tout fait. J'ai tout profité.
T'as fait le yoga, t'as fait la cuisine, t'as fait le tricot, la peinture, là, t'as passé au travers de toutes les activités.
Là. Ouais. Là, tu sais, si ça continue de même, je vais me mettre à collectionner des vieilles scènes. Là.
C'est assez. Le numismate en toi va se réveiller.
Écoute, tu sais ce que j'en pense, hein? C'est presque un easter egg. Est-ce qu'on en
a dit, c'est impoli d'avoir des insights envers les auditeurs, fait qu'on va expliquer. À l'époque où j'étais à la radio terrestre FM, Martin travaillait dans la même station que moi, il vendait de la publicité, puis on avait eu cette idée-là de faire une chronique sur les pires cadeaux. C'était dans la période du temps des fêtes, puis mon émission était une d'affaires publiques. Puis qui s'inspirait de l'actualité, de la politique. Puis dans le temps des fêtes, c'est assez tranquille, ces choses-là. On cherche des sujets légers. Puis Martin m'est arrivé avec cette idée-là que j'ai trouvé très drôle et qu'on a tout de suite concrétisé, de faire cette chronique de cadeaux de merde pour Noël. Puis un de ces cadeaux-là, à part le Potter qu'on pisse dedans, un de ces cadeaux-là était une suggestion de notre gouvernement canadien qui cherchait à inciter sa population à offrir à ses enfants des pièces de monnaie de la monnaie royale canadienne. Canadienne, genre des 25 cents à 35$ pour le plus grand plaisir, plutôt la plus grande déception des enfants. C'était assez ridicule comme suggestion de cadeau. Moi, j'imagine le petit gars de 10 ans là, qui s'attend à avoir un nouveau jeu de PlayStation 4 puis qui reçoit un 25 cents qui vaut 30$.
Ben oui, mais en plus, Frank, c'est-tu la pire idée à avoir? T'sais? Qu'est-ce que tu donnes un an? T'sais, c'est quoi l'affaire que tu es sûr qu'il ne gardera pas? Que tu peux donner à un enfant. De l'argent.
Une scène. Le 25 cents à 30$, là, il va aller acheter 25 cents de bonbons. Là. Quoi que ça doit exister, 25 cents de bonbons. Là.
Le petit casing en plastique, là, moi, je donne une semaine, il est défoncé, puis le 25 cents, il est dans une machine à toutou, quelque chose.
Une machine à liqueur ou la patente Pinac là, pour ramasser des toutous avec la grosse pince molle.
Ah, c'est ça. Mais non, pour revenir à ta question de base, ça va, écoute, moi je m'amuse beaucoup, écoute, le ménage du dimanche, là, pour pas tomber non plus dans l'autopilogue, mais ça arrête pas d'augmenter, je reçois, écoute, je te dirais, là, je veux pas exagérer, facile entre 15 et 25 captures d'écran ou vidéos, t'as-tu vu ça passer, la dernière qui est très très populaire, c'est cette madame qui a envoyé une sommation à François Legault, là, par huissier, elle et 5 personnes, et ce qu'elle a jugé pertinent de faire, c'est de lire, en fait, le document légal qu'elle a envoyé. Ça dure 50 minutes. Écoute, c'est pénible, c'est difficile, mais c'est tellement fucking drôle. Puis, je prépare des affaires, là, j'ai envie de...
Ça doit être dans un français exceptionnel.
Non, c'est pas si pire, honnêtement, c'est pas si pire. Ouais, de ce point de vue-là...
Quelqu'un qui les a aidés.
Peut-être, ou tu sais, par chance, elle a pas écrit. Fait que...
Ou par chance, il y en a un dans la gang qui savait s'exprimer convenablement, ben, même s'il y avait...
Non, mais écoute, là, c'est sûr que, écoute, c'est très clairement fait, tu sais, je veux dire, puis c'est bien correct, là, mais je veux dire, c'est fait avec un sel, puis tu sais, tout ça, mais écoute, ça c'est ça, ça a des views, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est là.
Ben, J'en reçois aussi hein, des suggestions pour le ménage du dimanche dans mon messenger privé même. Puis je pense qu'il y a un beau petit engouement envers le ménage du dimanche. Puis je pense que ça fait œuvre utile là, dans les médias sociaux. Ça contribue pas beaucoup parce que c'est un océan de bullshit à pelleter. Mais il commence à avoir un petit bout d'eau un peu plus clair en partie grâce à cette page-là.
À l'entour de nous autres, ça me fait penser un peu à l'annonce de tu n'as plus Palmolive ou whatever, tu sais, que une goutte de savon à vaisselle dans un petit bol qui est plein de cossins, ben là, tu mets la goutte puis tous les cossins s'en vont sur le bord.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est une très petite goutte et c'est un très petit bol, mais garde.
On n'élimine pas les théories les théoriciens plutôt de conspiration, mais on est capable de les éloigner et d'avoir au moins un petit peu d'eau potable au travers de la rabouillasse de cochonneries qui se promène sur Internet.
C'est ça l'erreur, pour conclure sur ce point-là, Frank, c'est ça l'erreur qu'ils font aussi. C'est que, tu sais, moi, j'ai reçu des messages là de personnes qui me disent « Ah, va chier, pis nanana, pis c'est de la merde, qu'est-ce que tu fais? » Pis OK, c'est cool. Sauf que ils interprètent ce qu'on essaye de faire par de l'argumentation. Non, man, on veut juste te flusher pis rire de toi.
Oui, c'est ça. On veut pas embarquer dans le débat. On les veut pas, tes arguments. On les connaît. C'est on ça. Les a entendus mille fois. Ils font ni queue ni tête. On n'a pas le goût d'entendre ça. C'est le but de la page, c'est qu'on est tanné de vous entendre.
C'est ça, assainissement de réseaux sociaux, c'est pas argumentation, on veut pas vous débunker, ok, on va peut-être en parler dans le crachoir parce que c'est pas le ménage du dimanche, c'est tout, là, tu sais, ça veut pas dire, je ne suis pas obnubilé par la page ménage du dimanche, j'ai du fun, écoute, puis il y en a d'autres qui ont l'air d'en avoir, fait qu'on est bien content qu'ils joignent à nous autres, puis écoute, là, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ça, c'est qu'il y a des gens, il y a des vedettes qui se font blaster, à cause de leurs propos, puis il y a des nobody qui deviennent des vedettes. Tu sais, c'est dans cette époque-là qu'on vit. Tu sais, c'est fait que moi, ça me fait rire. Écoute, j'ai des affaires que je vais sortir sur la page. Là, si vous n'êtes pas déjà là, allez faire un tour. Puis écoute, il y a aucune monétisation, il n'y a pas de chaîne YouTube, d'argent, en fait, il n'y a rien là.
Le seul but, c'est d'assainir en s'amusant.
Voilà. C'est ça ma paye, puis j'en prépare une coupe, là. Écoute, là, il y a des affaires, là. Tu sais, il y a un gars là, qui est supposément un grand chum d'Alexis Crossette-Trudel qui a fait une vidéo. Écoute, pendant qu'il fait toute son espèce d'énoncé qui dure je sais plus combien de temps, asti, il passe une poule entre les jambes. Tu peux pas inventer ça, là. Ouais! Tu sais, j'ai rien contre ceux qui ont des poules, j'ai rien contre ceux qui produisent leurs propres œufs, ça n'a rien à voir, mais es-tu d'accord avec moi que si t'essayes de partir un mouvement crédible à propos d'affaires super sérieuses, puis qui te passe une boule entre les jambes?
c'est pas un exemple de décorum. Mais moi, ce qui me fait sourire aussi, c'est que pendant qu'il y en a qui invente une sorte de conspiration sur le 5G, puis que c'est ça qui nous aurait donné le virus, puis que le 5G va nous tuer, tout ça, puis que Donald Trump va nous sauver. Pendant qu'ils disent ça, Donald Trump disait « Hey, j'en veux plus, moi, du 5G. » Ah ouais, c'est ça. Voir comment ils vont se rattraper de ça. Peut-être de la même façon qu'avec l'eau de Javel, tu sais, ingérer du désinfectant. Ils vont dire « Ah, c'était sarcastique. » Hey, hier, j'ai fait... je me suis commandé de la bouffe, puis le livreur m'est arrivé avec ça, puis il m'a dit que c'était un trucage, puis que... écoute ça. Puis que c'est pas une vraie vidéo, puis dans une vidéo, on voit que sa cravate est rouge, puis dans l'autre plan de caméra, sa cravate est pas de la même couleur. Ça veut dire que quelqu'un qui a pris la peine de truquer un trucage, de prendre son logiciel puis changer la cravate à Donald Trump pour faire croire que c'est un montage. Il y a quelqu'un qui... Puis mon livreur, il a cru à ça. Mais lui, j'ai jasé un peu avec, puis tu sais, c'est pas pour mal faire, le monsieur, il fait partie de ceux qui ne comprennent pas Internet puis font pas la différence entre une source fiable puis les poubelles d'Internet. Là, il souffre de la même maladie que Alexis Cossette machin, là. Puis il croit à tout, là. Puis d'après lui, il m'a dit, garde, tu vas voir, là, d'ici 2 mois, on va se reparler, là. Tu vas recommander de la bouffe. D'ici 2 mois, Justin Trudeau, il est en prison. Je dis, parfait, on gage-tu 500$. Là, il a pas voulu, là. J'ai jasé avec au moins 15 minutes avec un livreur, faut le faire. Mais j'ai réussi à semer le doute dans son esprit, puis il m'a dit qu'elle allait aller voir ça, puis qu'elle allait rechecker ses affaires. Puis il dit, ouais, ben, je vais faire mes recherches. Oui, mais avant, assure-toi de faire tes recherches à des places qui sont crédibles. Puis il dit, ouais, mais moi, je trouve d'informations, puis ils veulent pas nous la donner, les médias. Je dis, mais avant de te demander pourquoi les médias nous donnent pas telle ou telle information, demande-toi donc, un, si l'information est vraie, puis deux, si elle vient d'une source crédible, puis là, tu vas avoir ta réponse, pourquoi les médias ne le sortent pas. Puis là, il me parlait il me parlait que c'est fait bloquer sur Facebook par Jean-Marc Belzile, qui était journaliste de Radio-Canada, qui a déjà été journaliste dans mon émission jadis. Tu l'as connu aussi?
Ben oui.
J'ai dit, ben oui, mais sais-tu pourquoi il t'a bloqué? Pas parce qu'il veut pas te dire la vérité sur la chloroquine, c'est parce que tu dois être le 50 millième à le harceler avec tes théories de fou. C'est juste pour ça. C'est pas parce qu'il cache des choses, parce qu'il a besoin d'avoir une vie aussi. Là,
c'est
spécial dans la tête de ces gens-là, ce qui se passe.
Avant qu'on continue le show, là, très rapidement, là, je veux quand même décerner un prix de créativité à certains conspirationnistes, parce que, écoute, je suis absolument... complètement flabbergasté à l'effet que ils ont trouvé une façon de, comment dire, louanger Donald Trump au sujet de sa fameuse allégation. Peu importe, vous pensez que c'est vrai, pas vrai, il l'a dit, il l'a pas dit, je m'en contre-torche.
Il a parlé, il l'a dit, on l'a tous entendu.
Bon. Mais là, eux autres, il y en a qui disent, il a pas dit ça, vous déformez l'information, puis il y en a d'autres qui le traitent de génie, et je t'explique rapidement.
Génie?
Ouais. Là, il a parlé de désinfectants, il a parlé d'un paquet d'affaires nocifs. Mais dans le fond, son vrai but, c'était de nous sensibiliser au fait que il y a beaucoup de vaccins qui ont des produits désinfectants. Hey, ça là, vous méritez deux morceaux de robot côté créativité.
Ah, il mérite une médaille d'or de patinage de fantaisie.
C'est incroyable. Celle-là, tu vois, il y en a qui me font juste rire. Celle-là me fait chier. T'sais. Celle-là, come on, là.
Non, mais il y en a... Bon, mais tu sais, regarde... C'est un peu comme quand... Ouais, j'oublie tout le temps son nom, Alexis, bizarre. Là.
Alexis Grossette-Prudel.
Bon, lui, quand il s'est attribué le mérite là, du déconfinement, je dis, bon, le gouvernement a écouté Radio-Québec. Il est convaincu que son petite cochonnerie de Radio-Québec de marde a eu vraiment une influence sur le gouvernement, puis a provoqué le déconfinement, puis c'est grâce à nous. Puis il dit carrément victoire totale sur toute la ligne de Radio-Québec. Ta gueule, man! C'est comme si moi, j'écoute le hockey à TV, puis Shoot! Et puis là, le joueur, il shoot, puis il score. Yeah! Victoire sur toute la ligne du crachoir! Chris de cave, man. Prends tes pelules, là, Steve.
Ah, moi, ça m'énerve.
Colin, on peut-tu lui souhaiter une extinction de voix permanente pour la fin de ses jours? C'est imbécile, là.
Écoute, tu sais...
Ça se peut-tu, là? Il y en a du monde qui se prennent pour d'autres puis sont un peu comme deluded, là, comme on dit en anglais, illusionnés. Et lui, c'est le champion de toute catégorie, là.
Non, mais Frank, là, je conclue là-dessus, là, dans la même vidéo à laquelle tu fais référence, là, qui crie victoire, puis toute la patente.
Oui.
OK? Il y a, dans le coin supérieur droit, une image qui visiblement, lui ou quelqu'un. Puis j'aime comment il parle toujours « on », hein? « On ».
Il est tout seul, Colis.
Oui,
c'est un tata dans son sous-sol. Arrêtez, « on ». C'est pas une organisation Radio-Québec, là. C'est un tata sur YouTube, parmi tant d'autres tatas sur YouTube. Il pogne parce que vous êtes crédules. C'est quoi vous dire? Vous êtes des cas. Sur des
polos jaunes. OK, attends.
Avec ses belles épées, là, tu sais, ses épées de marché aux puces que tu payes 10$, là, que la lame est juste vissée sur le manche, là, pis tu peux pas rien couper avec ça, ni te battre avec. C'est juste comme, regardez ça, j'ai l'air d'un tueur, j'ai une épée à 5$, c'est du marché aux puces.
Ça tient de la colle chaude.
Okay. Oui, c'est ça. C'est un manche en plastique, la lame qui tient de la colle chaude. Ça en dit long. Tu sais, bon, ça en dit pas long, mais ça donne un indice sur la personnalité de l'individu, là, tu sais, de quelqu'un de deluded au maximum.
Mais, Frank, l'ultime, tu l'as vu, mais je te le rappelle, puis on va rire tous les deux ensemble. Dans le coin supérieur droit de la fameuse vidéo Victoire, OK, il a pris la même police de caractère que Star Wars. OK. Il a appelé ça COVID Wars.
Oui.
En bas, avec une petite police 1902, là, il a écrit La Rébellion. Là, il prend tout le monde, là, Han Solo, Leia, tout le kit, puis il a changé le tête, puis il a mis Lucie Laurier.
Mais oui. Il devrait appeler ça Idiot Wars, Steve. C'est ça que c'est Idiot Wars, puis il a mis toutes les pires idiots de la province.
Mais non, mais écoute, là, commande-toi une flashlight, Alec. Tu fais quelque chose, là.
Tout devant le miroir, pas devant YouTube, Steve.
Tout ce que je vois dans ces affaires, c'est un incel en puissance, OK? C'est la seule affaire que je vois. Il n'y aura jamais de blonde. Puis s'il y en a une, allô. Je ne sais pas quoi dire ça.
on n'est pas fin. Ça ne doit pas être la reine du jugement, en tout cas.
On n'est pas fin, mais c'est ça. Fait que vous méritez. On est dans la classe des prix Darwin, là, tant qu'à moi, au niveau créativité. Là, vraiment, comment faire de la récupération crasse de quelque chose que fondamentalement n'importe qui a plus que 80 de quotient intellectuel comprend que dans le fond, Trump, il a fait son show, puis c'était cave, puis ça finit là. Tu sais, quand tu sais que la même journée ou le lendemain, 24 heures plus tard, il y a au centre antipoison de New York, ils ont répertorié 30 cas de monde qui ont été en contact et ou consommé et ou whatever.
Ah, mais garde, Trump, ça marche un peu comme les astrologues puis les médiums. C'est-à-dire que ceux qui y croient, ceux qui trippent là-dessus, ils vont écouter le médium. Puis là, le médium, il va dire, il va aller à la pêche, là. Il va dire, je sens qu'autour de toi, il y a une présence, là. Ça commence par P, Pierre, Paul, Peter. Puis là, à un moment donné, ils vont voir dans tes yeux, tu sais, qu'il y a une petite... Il va avoir nommé 50 noms, là, puis à un moment donné, il va tomber sur le bon nom, puis hein, il savait son nom, puis il savait son nom. Je me dis, mais c'est parce que toi, vu que tu veux y croire, tous les coups manqués, tu les retiens pas. T'as même pas remarqué qu'il t'a nommé 50 noms. Tu remarques juste qu'il t'a nommé un bon nom après 50 mauvais, là. Puis là, t'as l'impression qu'il y a un don, puis qu'il est tombé dessus tout de suite, parce que ton esprit efface de ta mémoire les 50 noms manqués, les 50 noms qui avaient pas rapport. C'est comme une mémoire sélective. Tu choisis de te souvenir de ce qui te conforte dans ta croyance. Tu te souviens de ce qui te permet de continuer à aimer Donald Trump parce que tu l'aimes. C'est comme une femme battue. Ouais, oh, il me bat, mais Colin, l'autre fois, il m'a acheté des fleurs, puis je sais qu'il pense à moi beaucoup. Puis oui, il m'a trompé, mais il m'a dit qu'il pensait vraiment à moi quand il fourrait l'autre. Puis,
ah ouais.
Tu sais, c'est non, mais c'est ça que c'est. Les fans de Trump, là, c'est des cocus, c'est des C'est des gens qui se bercent d'illusions, qui vivent pas dans la réalité, qui choisissent les informations qui leur permet de rester dans leur petite zone confortable de croyance, puis tout ce qui va les porter à réaliser que leur croyance est pas fondée, ils l'oublient, ils l'effacent de leur mémoire. C'est pour ça que Donald Trump, c'est pas la première niaiserie qui a pas d'allure qui dit là l'affaire de désinfectant là. Il y a une accumulation, ça fait des milliers d'affaires qui dit, des tweets, tout ça, c'est milliers d'affaires qui dit qu'on voit bien que c'est un imbécile, on voit bien que c'est un imbécile. Mais eux autres le voient pas parce que ils retiennent pas ces choses-là. Puis quand ils ont pas le choix de le voir parce que c'est dans leur face partout, comme dans le cas de Trump qui dit de s'injecter d'ingérer des produits désinfectants, ben ils trouvent une façon de justifier, de rationaliser, ils inventent sortes d'affaires. Voilà. Puis ils vivent dans le déni parce qu'ils ne peuvent pas accepter que leur héros, ce Donald Trump-là, qu'ils aiment d'un amour infini et surtout inconditionnel, ils ne peuvent pas admettre qu'ils se trompent. Ou ben surtout pas que ils ont tort puis qu'ils ont été abusés puis qu'ils l'aiment puis ils devraient pas, tu sais, si ces gens-là avaient l'honnêteté de se regarder dans le miroir puis dire, t'as un peu là, il y a dit ça, je suis peut-être un peu cave moi de le croire, ben, pis de le trouver hot, mais ils se rendent pas là parce que ils font pas cette réflexion-là. Eux autres, ils effacent les moments qui sont péjoratifs, qui sont au détriment de Donald Trump, plutôt au détriment de leur amour, de leur fanatisme, ça, ils l'effacent de leur mémoire, puis les petites affaires qu'ils trouvent cool, ça, ils le retiennent.
As-tu remarqué, depuis qu'ils sont sortis, moi, je les ai partagés, je sais que toi aussi, as-tu remarqué que depuis les deux fameux tweets consécutifs à l'effet qu'ils voulaient la 5G puis tout le kit, pas entendu un esti de mot là-dessus, hein?
Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'inventer quelque chose encore, mais ça va. Ben,
t'entends l'hamster courir dans la roue, là, parce que là, ils vont trouver une manière de se
passer. Ben oui, ils vont trouver une façon, là. Ah, oh, il a dit ça juste pour faire croire à l'ordre mondial qui est de leur côté, mais dans le fond, ils vont empêcher ça.
Ah oui, c'est vrai. Moi, je pense que j'ai vu une affaire de même, t'as raison.
C'est vrai, déjà? Bon, regarde, moi, je viens de l'inventer, esti.
Ça fait vite, hein?
Ben oui. Sauf qu'eux autres, moi, je l'ai inventé, là. Mais ceux qui vont l'inventer ou qui l'ont déjà inventé en parallèle, ils croient pas non plus. Mais ceux qui vont lire et qui veulent continuer à l'aimer, Trump, ils vont continuer. Ils vont y croire puis ils vont l'acheter sans problème.
Clairement.
On va passer une petite pause et on va démystifier bien des choses, je pense, dans la conversation avec l'invité qui s'en vient. C'est le crachoir, épisode 106. Franchement, j'en ai.
Dans les pharmacies. Dans les pharmacies, on vend du nougat et du chocolat, des bonbons, citrons, des stylos, des poupées gentilles.
pour les petites filles. Et pour les garçons, les lapins qui sont sauteurs et polissons, ces pharmacies-là sont celles du Canada.
Le crachoir, épisode 106. On reçoit de la grande visite cette semaine. On a décidé de, pour une fois, d'avoir un invité crédible pour nous parler de la COVID puis de toutes les conspirations, tout ce qui gravite autour de ça. Parce que, oui, nos opinions peuvent être intéressantes et ludiques, mais crédibles un petit peu moins que celles de notre prochain invité. Martin, t'es allé chercher une bonne pointure?
Ah ben écoute, je suis très fier, Frank, d'avoir avec nous nul autre que Jean-Yves Dionne. Bonjour Jean-Yves, j'espère que
tu vas bien. Salut les gars, moi ça va très bien.
Écoute, Frank, je t'explique un peu le sens de la démarche. Évidemment que tout le monde sait que je suis en mission de vie de débusquer les conspirationnistes, de rire d'eux autres, ou en tout cas, ma démarche est humoristique, mais il reste quand même qu'on se pose toujours des questions. C'était le sens de mon invitation, en fait, auprès de Jean-Yves. Jean-Yves, d'ailleurs, qui est, bon, évidemment, tu vas pouvoir te présenter mieux que moi, Jean-Yves, mais pour mettre la table, Jean-Yves est pharmacien. Jean-Yves a une plateforme qui s'appelle Jean-Yves Dionne, Franchement Santé. J'adore la mantra. C'est tout simplement un pied dans la science et l'autre dans le gros bon sens.
Exact.
Ben, tu vois, moi, ça, j'achète ça. Tu peux me dire tes affaires, puis ça part déjà pas mal mieux qu'un poste de 200 mots avec 60 fautes d'orthographe qui ne sont pas des fautes de frappe. Alors, écoute Jean-Yves, nous autres, on va se gâter. Je sais que Frank a beaucoup de choses dont il veut parler avec toi aussi. On va faire ça un peu comme ton podcast, forme de table ronde. On va
allons-y. Ronde en confinement, on est chacun chez soi, je trouve ça fascinant. Ben,
c'est ça, exactement. Frank, veux-tu commencer? Moi, j'en ai des trucs, là, mais je sais que toi aussi. Là.
Ben, je sais que, Martin, tu voulais aborder ces vidéos de théories farfelues sur le VIH. Puis, je pense qu'on pourrait peut-être aborder la question tout de suite avant de passer aux questions auxquelles on s'attend sur le COVID. Il y a en masse de théories de complot, d'informations, de désinformations aussi, surtout de désinformations là-dessus. Mais je trouve ça intéressant, cet aspect-là du VIH qui ressort avec des vidéos qui ont été très populaires. Martin, c'est toi qui m'as envoyé ça.
Oui, ben écoute, il y a une vidéo en particulier, puis écoute, on n'est pas là non plus pour empêcher le monde de se tenir au courant, ou en tout cas de savoir de quoi on parle, bien sûr.
C'est de s'exprimer, là, mais des fois, on peut apporter des nuances ou dénoncer quand on dit n'importe quoi.
Bon, c'est exactement ça. En fait, la vidéo s'intitule « Lettre ouverte à mon médecin ». C'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle « Sida censure ». En gros, je fais ça très rapidement. La prétention, en fait, la prémisse derrière ça, c'est de dire que le sida, le VIH, le fait qu'il existe des médicaments contre cette maladie-là, c'est une énorme supercherie mondiale qui ne sert qu'à engrossir les profits de Big Pharma et tout ça. Et moi, ça m'a interpellé beaucoup parce que, tu sais, je me questionnais un peu sur le sens du timing de la personne de sortir ça pendant qu'on est dans une pandémie mondiale. C'est soit génial ou soit épais. Je suis pas encore décidé. Puis c'est ça, écoute. Puis Jean-Yves, je sais que tu es versé sur la question en ta qualité, bien sûr, de pharmacien, mais j'ai envie de dire historien de la science. Qu'est-ce que tu penses de ces théories-là relatives?
Bon,
parce que t'es entendu, là, fait que...
Je les ai entendues parce que, avec mon grand âge, j'étais là quand le sida est apparu. Hein, le syndrome de l'immunodéficience acquise, où au départ, on ne savait pas c'était quoi. Premier cas à Québec, il est en 1984 au CHUL, et c'est dramatique. C'est quelqu'un qui est en train de mourir de tout, littéralement. Là, il perd du poids, il a toutes les infections possibles, il n'y a rien qui marche, on ne comprend pas. Faire une histoire, de dire que le virus n'existe pas, c'est quelqu'un qui n'a jamais lu une étude clinique ou de la microbiologie, ou parce que le virus est étrange. C'est un virus étrange, mais c'est un virus qui est caractérisé. On le connaît, on l'a déjà vu. De là à savoir s'il est présent dans le sang des gens qui prennent des médicaments, la notion de la charge virale, c'est un des critères d'évolution de la maladie. C'est-à-dire que si la charge virale diminue, c'est parce que ça va mieux. Puis, il y a des gens chez qui, après un certain nombre d'années, la charge virale est indétectable. Sauf qu'il y a des cas où les gens ont arrêté les médicaments, puis au bout de 3 mois, ça va bien, je suis guéri. Au bout de 6 mois, ça va bien, je suis guéri. Puis au bout de 2 ans, paf, ça repart. Donc l'agent pathogène a été trouvé. L'histoire de la conspiration puis de la théorie en arrière d'un virus créé en laboratoire, si vous permettez, je vais vous faire une théorie alternative au sens où c'est un virus qui apparaît en Afrique, pas en Californie, OK? Les cas dramatiques dont on entend parler viennent de Californie. Oui, c'est la communauté des gays qui est très, 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 je vais dire libérale sexuellement, là, qui travaille beaucoup, mais c'est pas eux qui l'ont apporté. Et ça se passe en Afrique, et il y a un virus qui, au niveau origine, ressemble étrangement à un virus qui se promène naturellement chez un certain type de singe. Là où l'anguille sous roche, c'est que il y a deux théories qui sont parallèles, qui sont tous les deux plausibles. La première, c'est que le virus, un peu comme, bon, on pourra parler de la COVID tantôt, aurait muté, aurait changé de population parce que on affecte les niches écologiques et finalement, pouf, il se déplace, il change de forme puis attaque l'humain. Ouais. Mais en même temps, il y a une campagne de vaccination massive dans les pays d'Afrique où ça commence. Puis là, on se pose des questions parce que l'autre théorie explicative, ce serait beaucoup plus une erreur de laboratoire qu'un esprit machiavélique qui aurait conçu un machin pour tuer les Africains. Alors, l'erreur de laboratoire, c'est que à cette époque-là, pour cultiver des virus, c'est vrai qu'un virus, c'est pas vivant. Hein, ça se reproduit pas comme des bactéries. Ça nourrit pas un virus, puis... C'est ça. Ça va infecter une cellule. Ça prend la mécanique génétique de la cellule pour se reproduire. Donc, c'est un parasite essentiel. C'est pas vivant. Alors, la technique de l'époque pour reproduire ou répliquer des virus ou produire des virus pour faire des vaccins, c'était d'utiliser des cellules qui venaient du rein de ce singe-là en question. Et le postulat, c'est que ça se peut très bien qu'il y ait eu une erreur de laboratoire et que les cellules qu'on avait utilisées n'étaient pas propres. Il y avait déjà le virus et que dans toutes les techniques pour multiplier les virus, ce virus-là serait apparu et dans le processus aurait changé et serait véhiculé dans ce vaccin de l'époque qui est un vaccin au virus vivant pour une autre maladie. C'est plausible. Le hic, c'est qu'on n'aura jamais de preuve de cette affaire-là pour la bonne et simple raison que les laboratoires qui ont fait ça n'existent plus et que, imaginez que les actionnaires de ces compagnies font « Hey, il y a un doute, on pourrait peut-être se faire actionner. OK, on ferme la boutique, clock, et voilà, on règle le problème. » Donc, on a vraiment deux théories qui ne peuvent pas tout expliquer et qui sont plausibles toutes les deux. Et c'est là où on est. Alors, le constat final, c'est que oui, il y a un virus qui attaque le système immunitaire, qui attaque certaines cellules, les CD4 du système immunitaire, qui rend le système immunitaire à plat. Donc, on peut pas se battre contre ce virus-là, on se bat contre rien d'autre. Et les gens mouraient au passé de complications comme le sarcome de Kaposi, qui est un cancer de la peau, comme des pneumocystis et autres pneumonies. Alors, toutes sortes de choses comme ça où ça apparaît exclusivement chez des gens dont le système immunitaire est non fonctionnel. Alors, oui, vas-y.
Je trouve ça intéressant parce que j'avais pas entendu cette hypothèse-là, comme quoi ça serait une erreur de laboratoire. Puis je suis en train de me dire, pendant que vous parlez, que ça risque d'alimenter les théories de complot parce que là, on va questionner, on va plutôt faire un procès d'intention, comme quoi c'est pas une erreur de laboratoire. Ou même si c'est avéré que, admettons qu'on achète que c'est une erreur de bonne foi de laboratoire, on va encore se servir de ça pour discréditer les vaccins ou dire qu'ils sont dangereux?
C'est plausible, parce que ça a été fait. Si vous voulez parler des vaccins, on peut aller dans cette direction-là, parce que moi, ma position de professionnel, c'est dire c'est un outil thérapeutique intéressant, mais ça reste un médicament injectable. Et les deux camps qui se battent, c'est les pour versus les contre. Les deux sont... Je ne mettrai pas d'hyperbole là. Ils sont pas corrects. J'aurais mis un plus gros mot. les anti-vaccins, tous les vaccins sont pas bons. Non, la science est là, l'efficacité est là, mais il y a tout un enflure sur le vaccin de la grippe qui marche une année sur deux. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis du côté des pour, tous les vaccins sont bons, ils sont tous sécuritaires. Non, c'est un médicament. Un médicament, par définition, ça a des effets secondaires. Alors, si on avait un discours, ne serait-ce que nuancé au niveau des pro-vaccin, en disant « Oui, c'est vrai. Oui, il y a telle affaire. On a tel problème. On a les chiffres. » Puis on arrête de s'enfler la tête avec une maladie pas dangereuse comme la rougeole. Tu sais, il y aurait plus de crédibilité. Il y aurait moins de gasoline dans le camp des contres.
Oui, c'est ça. C'est quand même... C'est souvent ce qu'on aurait fait, c'est que les anti-vaccins, quand ils se rendent compte, soit qu'on leur ment ou qu'on leur dit pas tout, ou bien qu'on ne donne pas ces nuances-là, ça va les renfrogner dans leur position. Puis, hey, je le savais, ils mentaient.
Ouais, hey. Ben, moi, j'ai une question, Jean-Yves. Okay?
Vas-y.
Puis, je veux pas tomber. Oui, en ta qualité de professionnel de la santé, puis tout ça, puis tes connaissances, là, c'est clair que tu vas répondre à ma question autrement que si moi, je m'en fais poser. T'sais. Sauf que tu vas comprendre où je t'emmène. Tu vas comprendre où je t'emmène. C'est oui. En fait, j'ai deux questions. Ma première, qui va mettre la table. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, à ta connaissance, et pas toi personnellement, mais à titre d'historien de la science et de ton niveau de connaissance, qu'un groupuscule de personnes crée un virus?
Écoute, pour répondre à ta question, créer un virus de toute pièce pathogène, la réponse c'est moi je suis pas au courant. Okay. Ça a certainement été étudié parce que les guerres bactériologiques, écoute, c'est pas d'hier qu'on en parle. Par contre, pour nourrir le camp des adverses, il y a énormément de recherches pour utiliser certains virus, notamment des phages, donc des virus qui s'attaquent à des bactéries, pas à des humains, pour envoyer soit du code génétique dans une cellule, c'est comme ça qu'on fait les OGM, c'est soit envoyer des médicaments pointus dans certains types de cellules qui ont telle modification, ça se fait énormément. Mais on travaille sur des classes de ces virus-là qui n'ont rien à voir avec les grands virus pathogènes.
OK, bon, ça c'est la première question que j'avais. La deuxième question maintenant. Là, t'es pas dans une radio, t'es pas à télévision, t'es pas en train de faire une chronique. Puis là, ton beau-frère, ton chum d'enfance, ta sœur te dit, « Bon, ben là, regarde, tu sais, dans des circonstances, je comprends que tu vas me répondre, ben ça dépend, là, mais regarde. »
Pose-la ta question.
Tu dis-tu de se faire vacciner s'il trouve quelque chose ou pas?
Ça dépend de la maladie.
Ben, je te parle de la COVID, là. Demain matin, l'OMS autorise un traitement.
Tu okay. Traitement ou un vaccin?
Excuse-moi. Okay.
Ben là, écoute, par exemple, pour répondre à ta question, il faudrait que je sois dans la situation concrète de savoir qu'est-ce qui a été sorti comme vaccin. Je reviens avec ma prémisse, c'est un médicament. Si je l'ai attrapé, pourquoi je me ferais vacciner, première chose. Deuxième chose, quel type de vaccin on m'a fait? Est-ce qu'on m'a mis un paquet d'affaires dans la bébelle qu'on m'injecte, notamment des adjuvants à l'aluminium, notamment des additifs au mercure? Je vais poser des questions sérieuses sur l'innocuité, donc la sécurité de la bébite qu'on va m'injecter à moi. Par contre, pour aller dans le sens inverse, il y a des très belles recherches par une toute petite biotech dans la région de Trois-Rivières qui travaille sur une modification de levure pour faire un vaccin oral. J'ai dit, wow! Hey, ça, je vais en savoir plus parce que ça m'intéresse, parce que ça, je le prendrais. Vois-tu?
Parce que Jean-Yves, dans la tête de tout le monde, là, dans le conscient collectif de la majorité des anti-vaccins, tu sais, eux autres, là, on dirait tu pourrais les hypnotiser puis les faire parler, puis je pense que si tu leur demandais, tu vois comment la tringue, elle va avoir une aiguille de 20 pieds de long, puis elle va avoir 3-8. Tu sais, tu comprends-tu, il s'est créé une espèce de mythe, pas de mythe, mais tu comprends ce que
je veux dire? Je comprends très bien ce que tu veux dire, puis je te dirais que ça commence avec l'enflure arrive, parce qu'au niveau industriel, on a fait des passe-passe du genre les fast-track pour approuver un virus avant qu'il soit prouvé cliniquement, parce que théoriquement, c'est la même excuse-moi, un vaccin, mais t'as raison,
pas
un
virus. Il y a du monde qui nous écoute qui vont nous spinner ça là, pour nous ramasser, là, je te le dis. Hein.
C'est que si on voulait vraiment faire une campagne d'éducation, il faudrait éclaircir certaines zones grises pour répondre aux angoisses de ces gens-là, notamment les adjuvants qu'il y a dedans, l'aluminium. Notamment l'aluminium, le mercure et autres cossins, ou encore, soyons clairs, il n'y a pas d'études d'innocuité sur ces substances-là. Alors, à un moment donné, il faut être clair des deux côtés, là. Et la notion des fast-track, donc la notion d'accepter un produit beaucoup plus rapidement, sans avoir toute la documentation, ça interpelle beaucoup. la notion de colliger ou non les effets secondaires après tu sais 2, 3, 4 semaines, tu fais comme s'il y a quelque chose de douteux là. Alors si on était capable d'avoir de la bonne foi vraiment objective des deux côtés, on aurait un discours et on aurait une meilleure compréhension. Alors par exemple, le vaccin de la polio, je vais dire oui demain matin, ça tue. Puis si ça tue pas, ça te laisse avec des dégénérescences neurologiques majeures. Le vaccin de la grippe, ben ça dépend dans quel état tu es. Si tu as la capacité de te retirer du monde, tu es en très, très bonne santé, tu n'as pas de fragilité pulmonaire, c'est ton choix, là, je m'excuse. Par contre, si tu attrapes la grippe, fais ce qu'il faut pour ne pas la donner à tout l'édifice, là, tu sais. C'est là où il faut vraiment ne pas embarquer dans les discours hyperboles de chaque côté. T'sais, on a eu toute l'histoire de la rougeole là, aux États-Unis où c'était la fin du monde. Excusez, ça tue pas, mais je le dis là. Toutes nous autres de ma génération, il y avait de la rougeole dans le quartier. Les parents nous envoyaient tous jouer avec les petits bonhommes. T'sais, attrape-la.
Oui, ben oui, ils faisaient des parties pour contaminer leurs enfants pour qu'ils soient après ça immunisés pour la varicelle, même chose.
Bon, je veux bien qu'on aille un protocole, mais tu sais, des données qui manquent, par exemple, la séroconversion, la capacité de faire des antioxydants, des anticorps au fameux vaccin ou au virus ou à la maladie, avant un an, il y a des experts qui remettent en doute l'efficacité. Alors, pourquoi on commence à 3 mois? Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qui sont pas claires. Fait que moi, je mets le blâme aux deux camps, littéralement.
Il y a beaucoup une grande partie de l'argumentaire des anti-vax qui repose sur la présence de métaux dans les vaccins. Vous en avez parlé aussi. J'ai senti une petite réticence à l'aluminium, le mercure. Premièrement, à quoi servent ces métaux-là dans les vaccins? Puis deuxièmement, quel danger pourrait-il représenter?
Bon, on va y aller, on va répondre à tes questions. L'aluminium est là, c'est un adjuvant qui va augmenter la réponse inflammatoire du vaccin pour augmenter la production d'anticorps, donc l'efficacité. C'est tout à fait vrai, ça. Le hic, c'est que l'aluminium, c'est un métal qui est un neurotoxique connu. Il y a un lien avec les maladies dégénératives du cerveau, notamment l'Alzheimer. Bon, des gens ont dit, ouais, c'est pas prouvé. Il y a assez de données pour dire que c'est pas l'agent causal, mais c'est un agent qui favorise. Deuxièmement, si l'aluminium, le sel d'aluminium qu'on utilise dans le vaccin a cet effet-là sur la réponse immunitaire à l'agent qu'on veut mettre dans le vaccin, il peut avoir le même effet sur plein d'autres affaires une fois qu'il est dans le corps. Et c'est ce point-là qui est de la contention au niveau du monde scientifique. La preuve de l'innocuité à long terme et des doses répétées, parce qu'une fois, bof, mais il y en a dans combien de vaccins, notamment les vaccins pour la grippe, qu'on nous encourage à prendre à chaque année. Mmh. Alors c'est ça, c'est douteux ça. L'autre côté, c'est le mercure. Le mertiolate, qui est un agent de conservation dans les vaccins, on l'appelait mercurochrome quand j'étais petit.
Sur les bobos,
exact, machin rouge, là. Bon, mertiolate, c'est pas tout à fait de mercurochrome, c'est son petit frère, mais c'est le même genre de composé, qui est un bactériostatique. Ça empêche la croissance. Alors, moi, j'ai grandi dans un environnement où, tu sais, tous les enfants avaient les genoux rouges à cause du mercurochrome, et le mercure est un autre neurotoxique. Alors, la question, c'est, avec toute la science qu'on a, pourquoi ça a créé quelque chose où j'ai un risque connu et le mettre injectable? On sait déjà qu'il faut limiter notre consommation de poisson parce que il y a du mercure dedans puis ça peut être dangereux pour faire des maladies neurologiques comme la maladie de Minamata, etc. Puis ça, c'est vrai, le Canada a signé l'entente de Minamata pour l'élimination du mercure. Il y a encore des vaccins. Alors, déjà, je me pose des questions dans mes dents au niveau des amalgames. Puis là, on me le sac dans une injection. On va me dire, oh, il y en a vraiment pas beaucoup. OK, mais combien de vaccins tu vas me donner dans toute ma vie? C'est là où le discours des pros, il manque un morceau.
Non, c'est comme à avoir une tuyauterie en plomb chez soi. Là, t'sais, à boire un verre d'eau par année, c'est pas trop pire, mais constamment boire ça, il y a peut-être des effets. Mais je remarque là-dedans que c'est là que ça devient... dangereux, c'est dans les nuances, parce que les antivax vont se servir de ces faits-là, puis ils vont partir après ça. C'est ça le problème aussi des conspirations, c'est qu'on part de quelque chose de plausible, après ça, on bâtit là-dessus des choses qui ont plus d'allure.
Exactement. C'est un peu comme tantôt le VIH, là. On part d'un doute, parce que je peux pas dire qu'une des deux thèses est la meilleure que l'autre, là. Il y a un doute. Mais c'est tellement facile de dire « Ah non, il y a une espèce d'esprit machiavélique dans un bureau qui a décidé de créer ce vaccin-là pour réduire la population en Afrique. » Allô?
C'est pour ça que les gens se font piéger, c'est qu'à la base, on part de quelque chose qui est soit plausible, soit vrai, soit avéré, puis après ça, on improvise puis on invente des choses.
Merci beaucoup.
J'aurais une dernière question avant que tu ailles, Martin. Ouais. Si ces produits-là ont des effets, là, je parle du mercure, de l'aluminium, si ces substances-là ont ces risques-là, est-ce que la science connaît des substances qui pourraient faire les effets équivalents sans avoir à s'injecter des substances cancérigènes ou neurotoxiques?
Mettons qu'on connaît de nombreux... Au niveau des adjuvants, pour augmenter l'effet, je sais qu'il y en a une pléthore, il y en a une panoplie. Est-ce qu'ils sont tous aussi efficaces et qu'on a choisi celle-là pour une raison X? Là, tu sors de métal, je le sais pas. Okay. Au niveau des agents de conservation, ça, oui. Il y a plein de substances qui peuvent faire la même job qui n'auront pas ce risque-là d'accumulation.
Et pourquoi ils n'utilisent pas?
Je le sais pas.
C'est ça qui est louche. C'est ça qui est louche, les théories de complot.
Ben, regarde, c'est pour ça que moi, je suis vraiment entre les deux, là. Je suis sûr de la clôture.
Entre l'or et l'écorce. Je vous arrête, messieurs, parce que, c'est que, tu sais, je vais te donner un exemple, Jean-Yves, là, pis c'est pour ça que j'ai levé ma main tantôt. C'est que là, imagine-toi, là, je vais tout mélanger ensemble, là, mais laisse-moi aller, ça sera pas long.
Vas-y. Fait que
là, t'as les conspirationnistes au niveau des vaccins qui défendent Trump, puis là, ben, le débat, y a-tu dit injectez-vous ou buvez du Javex ou il l'a pas dit? Moi, je m'en sac, il a juste utilisé ça pour supposément faire de l'ironie, c'était une épée, là. Sauf que, regarde, au final, ça a fait en sorte que, il y a des gens qui sont pro-Trump qui utilisent cette bévue-là qu'il a faite pour dire de lui qu'il est intelligent parce que dans le fond, il a réveillé tout le monde au fait que dans un vaccin potentiel, il va avoir les mêmes ingrédients que si tu buvais du Javex.
Ah, ça, c'est du patinage.
Ça me dérange, je comprends.
Ben, oui, mais là,
ce que j'entends de ce que tu dis, Jean-Yves, c'est OK, mais pas à une affirmation complète et totale que il y a un gars dans un laboratoire ou une femme dans un laboratoire machiavélique qui est en train de pogner des mélanges à des concoctions qui vont être utilisées pour faire des vaccins. Okay. Pour dire, hey, on va y shooter. Et un peu de vitriol, tu sais, là. Oui,
bon. J'entends ce que tu dis, puis les raccourcis intellectuels sont légion dans le monde. Ouais. Très, très peu de gens prennent le temps de faire les plus et les moins, d'où mon commentaire, les deux sont pas corrects dans les deux côtés, et que si on prenait le temps de faire des nuances, d'expliquer. Ça a l'air que quand on parle à un groupe, faut parler à un enfant de 4 ans. Moi, j'ai ben de la misère à faire ça, là. Moi, je parle à l'intelligence des gens en espérant qu'ils, tu sais, au pire, poser des questions, là. Puis aller au bout de vos arguments au lieu de sacrer un bat de baseball dans quelque chose puis dire c'est fini, là, tu sais. Puis tu parles de notre président du Sud avec le toupette orange. Mettons qu'il est un spécialiste faire tourner les coins ronds et dire des faussetés, puis dire assez souvent que les gens le prennent pour du vrai, là. Tu sais, excusez, là.
Ben non.
C'est un problème.
Le problème avec Trump, c'est que il n'y a pas des supporters, il y a des groupies. Puis les groupies sont en amour avec lui, puis peu importe ce qu'il va dire. Puis Martin a parlé de cette anecdote-là où il se questionne. Trump, cet infectiologue et ce microbiologiste se questionnait si on pouvait s'injecter de l'eau de Javel ou à l'eau au soleil pour guérir.
Aller au soleil, c'est une autre paire de manches, là.
On va en reparler aussi. Mais je sais que aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des comprimés à base d'eau de Javel là, qui circulent, qui se vendent en grosse quantité aux États-Unis. Il y a une espèce de marché parallèle, une pharmacie. On peut pas appeler ça de la vraie pharmacie, mais ça se vend beaucoup. Il y a du monde qui prennent ça, de l'eau de Javel, puis des
OK. Ah,
okay. Puis souvent, c'est des groupes religieux qui partent de ça puis propriétaires de ça.
Ouais, ben attention de pas tomber dans l'autre côté, là. Mais il existe des comprimés de chlorate qui sont prévus pour désinfecter l'eau. OK? Tu peux en acheter dans les boutiques de camping. Tu mets ça dans l'eau, t'es pas trop sûr de ton eau, tu mets ça dedans, puis au bout de quelques minutes, elle est chlorurée, puis t'as tué les bactéries qui sont dedans. Ça n'a jamais été conçu pour être avalé, cette affaire-là. Là.
Mais il y en a qui l'avalent.
Ben oui, on fait des trous dans les estomacs aussi. Là. C'est comme l'eau de Javel, c'est la même affaire que tu mets dans ta piscine, c'est la même affaire qu'on met à l'usine de filtration.
L'acide chlorhydrique.
Ben oui, c'est des hypochlorites. Donc, il y a un oxygène de plus que dans ton acide, mais peu importe. Le but, c'est de tuer les bactéries. Mais ça fonctionne à une certaine concentration parce que si tu augmentes la concentration, ça tue toujours les bactéries, mais ça va te tuer aussi.
Non, c'est sûr.
Fait qu'à un moment donné, il faut aller au-delà de, tu sais, c'est comme, Le chlore. Hein? Le chlore, c'est un gaz qui tue. Ça brûle, ça tue. Le chlorure de sodium, c'est du sel de table. Fait qu'il y a du chlore dedans, mais il tue personne.
Mais c'est ça le problème, c'est que les gens comme moi, ben sauf que moi je fais pas ça. mais j'ai pas les connaissances, tu sais, pour avoir une opinion là-dessus, puis même faire des réflexions là-dessus, parce que si tu connais pas les faits, ton raisonnement ne peut être qu'erroné. Mais le problème, c'est que les gens parlent de ça, puis ils voient le mot chlore, ils voient C-H-L-O, OK, puis là, tout ce qui va être écrit dedans, ils vont se mettre à se méfier, puis regardez, je le savais, ils mettent du chlore là, puis oui, ben oui, c'est du
sel. Ah oui, écoute, on m'a transféré une vidéo d'une madame en France, là, qui fait des raccourcis intellectuels, un après l'autre, ça en est étourdissant, parce que, tu sais, tout est dangereux, tout est ci, tout... Puis la première, c'est qu'il y a du chlore dedans. Ben, du chlorure de sodium, c'est vital. Tu mens, tu peux... Ton estomac produit de l'acide chlorhydrique. Tu sais, allô? Renseignez-vous un petit peu, là.
Jean-Yves, je t'emmène ailleurs parce que moi, ça, c'est une autre affaire que je suis plus capable. Okay? Je te demanderai pas de parler de l'être humain parce que je m'en sac. Okay? Mais tout ça découle du fameux docteur Raoult. Okay?
Ah, oui!
S'il te plaît, Jean-Yves, peux-tu me parler de l'hydrochlorique whatever the fuck?
Hydroxychloroquine.
Bon, oui, bravo.
Hydroxychloroquine, le plaquénil de son nom. Écoute, ces deux molécules-là, chloroquine et hydroxychloroquine, à la base, c'était des produits contre la malaria. Okay. L'hydroxychloroquine a aussi un effet, qu'on va dire dans mon jargon, immunomodulateur. C'est-à-dire que ça diminue un petit peu ton immunité et c'est maintenant prescrit pour les maladies auto-immunes comme l'arthrite. Bon, le docteur Raoult, en France, qui est un chercheur éminemment reconnu, mais qui a un doigté de je sais pas, de pépine, mettons.
Une méthodologie spéciale aussi.
Les Saint-Forens, ce qu'il y a de pousse un peu, manque de finition.
Un petit peu. Alors, l'idée, c'est que ce qu'il dit, c'est pas faux.
Okay.
L'hydroxychloroquine a, semble-t-il, un effet pour empêcher la complication du virus et empêcher la réplication du virus via un mécanisme. Bon. Le hic, c'est qu'entre le fait qu'un médicament puisse avoir cet effet-là, le médicament, on a une étude qui fait qu'on est capable de répliquer et on va savoir comment l'utiliser, ce qui commence à arriver parce qu'il n'y a pas tort, le monsieur. Mais entre ça, l'usage d'un médicament dans un contexte hospitalier, dans un protocole particulier, versus de dire au monde « ça marche », c'est une autre paire de manches parce que, un, c'est un médicament de prescription. Deux, c'est pas parfait. Tantôt, on parlait des vaccins, puis moi, je considère que c'est un médicament injectable.
Okay.
Le plaquénil, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament. Il a des effets secondaires potentiellement dramatiques chez certaines personnes. Chez d'autres, c'est parfait, c'est génial, ça contrôle ton arthrite. Alors, c'est le genre d'outil qui doit être réservé dans le monde hospitalier, qui n'est pas un miracle, qui a un effet chez certains patients. Est-ce qu'on a identifié le bon patient? Je le sais pas. Mais c'est tombé dans le monde grand public avec, tu sais, un raz de marée. Puis là, le gouvernement empêche l'accès. Pis,
je me suis fait du restaurant hier, puis le livreur me disait ça, là, les gouvernements empêchaient la chloroquine parce qu'ils veulent pas qu'on guérisse. Justin Trudeau allait être en prison dans deux mois, puis j'en ai entendu toutes les saveurs.
Permettez-moi de vous expliquer la situation. Il y a un stock fini de cette quantité, de ce médicament-là. Il n'est pas infini, il est fini. Il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres. Et c'est pour ça que ici au Québec, on s'est fait dire, nous les professionnels, restreignez le médicament parce qu'il y a une pénurie qui s'en vient. Okay. Alors, on va le mettre aux gens qui en ont vraiment besoin. On le donnera pas à quelqu'un qui commence un rhume.
Oui, puis Jean-Yves, quand tu dis on va le donner aux gens qui en ont besoin, ça, on parle pas nécessairement ici de la COVID, là.
Ben, pas nécessairement, c'était d'abord et avant tout utilisé dans les maladies auto-immunes.
Voilà. Ouais, non, mais parce que, écoute, tu sais, je le sais déjà, je nous écoute parler, je t'écoute, Jean-Yves, tu sais, je le sais déjà, que je le sais pertinemment qu'il y a des conspirationnistes qui nous écoutent juste pour nous ramasser, là.
Allez-y, ramassez-moi.
Non, mais c'est
ils vont dire, il l'a dit, ça guérit.
Ben oui, c'est ça.
Oui, mais OK.
Ils sont bons pour prendre des clips de 5 secondes hors contexte. Puis
Si vous voulez, on va s'amuser un petit peu avec la COVID, là. Si vous voulez prendre des trucs, puis là, ça, c'est ma marotte en ce moment sur mes affaires à moi, hein, sur Franchement Santé, c'est justement de dire qu'est-ce que moi, comme individu, je peux faire. Alors, Plaquenil, sac ça aux oubliettes parce que c'est du ressort du médecin, c'est pas moi. Moi, je peux faire de la vitamine D, je peux faire du zinc, je peux faire de la quercétine si je veux, même si c'est pas prouvé. Je peux faire de la vitamine C, même si c'est pas prouvé. C'est utilisé en injection. Il y a plein d'affaires que je peux faire qui sont pas dangereuses. Ouais. Peux-tu rester là-dessus? Au lieu de s'évertuer à dire tel médicament, oh, le gouvernement m'empêche de l'utiliser. Ben oui, mais t'es pas malade.
Non, mais attends, là, Jean-Yves, là, c'est pas ça. C'est parce que là, si des professionnels de la santé comme toi disent que la vitamine C, c'est bon dans des cas où tu dois augmenter ton niveau immunitaire et tout le kit, tu vas être à la solde des compagnies de produits naturels qui vont prendre le contrôle mondial.
Tu sais, ben non, mais là. Ou tu vas embarquer dans l'espèce de théorie que à laquelle j'ai été confronté récemment que des injections de vitamine C massives guériraient tous les maux de la terre, puis le cancer, tout ça, mais ils veulent pas nous le donner parce qu'ils veulent qu'on reste malade pour faire de l'argent avec les médicaments.
Alors, la dernière partie de ta phrase est complètement fausse. La première partie est en grande partie vraie. Au sens où la vitamine C en oncologie, ça a des bénéfices. Au Québec, on veut pas le reconnaître, d'accord, mais tu vas en Ontario, puis c'est non seulement donné, c'est remboursé par les assurances. Fait que il y a quelque chose qui marche pas là. Ce n'est pas une panacée, ça règle pas tout, mais ça a des bénéfices documentés. Au niveau de puis c'est commencé à être utilisé en injectable, encore là tu viens de sortir du monde de qu'est-ce que moi je peux faire, et c'est utilisé dans certains hôpitaux au Québec pour les gens atteints des formes sévères de la COVID, parce que ça a un effet sur la fameuse tempête inflammatoire. OK? Mais on est dans le monde médical. On n'est pas dans le monde de l'autotraitement, parce que j'irai pas m'acheter de la poudre de vitamine C à la boutique d'aliments naturels ou en ligne, encore pire, mélanger ça dans de l'eau, sacrer ça dans une seringue, puis pitcher ça un peu. Non.
Mais certains vont dire, pourquoi, à place de convier toute la population à se faire vacciner, pourquoi ils injectent pas ces doses-là de vitamine C à tout le monde de façon préventive?
Ça marche pas.
Je me mets dans la tête d'un conspirateur.
Oui, mais je te réponds tout de suite, ça marche pas. Parce que je vais te répondre avec une notion pharmacologique.
Oui.
Ça, je dis, il faut faire des nuances tout le temps. La vitamine C, OK? Si tu prends la dose au-delà de ce que l'alimentation peut te donner, elle a ce qu'on appelle une demi-vie. Alors ça, en pharmaco, c'est la quantité que ton corps élimine. J'élimine une quantité, 50% de ce que j'ai, dans un temps donné. Puis 50% de ce qui reste dans un temps donné. Alors, la vitamine C, là, c'est pas 3000 ans, là. C'est 30 minutes. Alors, si je t'injecte une dose de cheval de vitamine C, ben 3h30 plus tard, tu l'as toute pissée.
Ouais, c'est ça, ça s'élimine par l'urine. Il n'y a pas d'effet à long terme, c'est ponctuel.
Zéro. Il y en a, si tu décides de prendre oralement, régulièrement, soit un supplément, ou de t'assurer que ton alimentation t'en donne suffisamment tout le temps. Et là, tu confères un effet de protection. Mais t'es plus dans l'habitude de vie que dans la panacée.
Oui. Bon. T'avais-tu d'autres? Moi, j'ai une autre question, Frank. T'avais-tu d'autres choses?
J'en aurais pour toujours, mais je vais pas abuser du temps.
J'en reviendrai, les gars.
Ah ouais, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup du temps que tu nous donnes. Mais moi, ma question est la suivante. Je sais que tu t'intéresses beaucoup, tu fais des conférences là-dessus, tu t'intéresses beaucoup aux conséquences qu'ont le stress et aux facteurs qui génèrent du stress.
Ah oui.
En ta qualité de bon, évidemment, là, tu te prétends pas non plus psychiatre ou peu importe.
Certainement pas.
Ben, c'est ça. Sauf que, moi, ma question est la suivante. Je suis confiné. Je ne suis pas la personne peut-être la mieux outillée pour gérer mon stress. J'ai peut-être des habitudes de vie qui sont pas très santé puis tout ça. Mm-hmm. À quel niveau, degré, gradation associerais-tu l'état de cette personne-là versus sa crédulité envers à peu près n'importe quoi? Est-ce que le stress est un facteur contribuant?
Oh boy! Là, tu m'amènes sur un terrain glissant.
On a déjà établi, là, je te demande pas ça comme si...
Non, ben, c'est pour ça que je vais te répondre comme je réponds toujours, c'est-à-dire avec des nuances. La réponse courte, c'est oui. Le confinement, le stress impliqué, le désespoir qui vient avec ça est une porte ouverte vers chercher des bouées de sauvetage, alias croire dans des affaires qui sont peut-être pas crédibles. OK? Ça, c'est réponse courte. La réponse un peu plus longue, c'est de dire que les gens qui ont déjà cette tendance-là vont l'avoir plus. Mais les gens qui ont un sens critique, un gros bon sens, une distance, pas nécessairement sociale, mais par rapport à tout ce qui est un petit peu trop beau pour être vrai, ou trop laid pour être vrai, ces gens-là, et j'en fais partie, vont augmenter leur sens critique. Alors, c'est vrai que plus tu es dans une situation où tu es pressurisé, plus tu cherches la réponse facile.
Ouais, parce qu'écoute, là, on avait tout dans nos réseaux sociaux ou dans nos réseaux humains, tu sais, quelqu'un de qui on faisait un petit sourire en coin, un peu coucou, tu sais, qui pense que, tu sais, je te donne un exemple classique, là. Les avocats, c'est tous des crosseurs, les ici, c'est tous des ça, tu sais, tu vois le genre, là, toujours
dans
des...
qu'on mange.
Tout, ouais, exactement. Mais, tu sais, des absolus comme ça, là. Mais oui, là, avec la COVID, avec le confinement, on va tous être d'accord pour dire que ça a été viral, là. Tu sais, qu'ils sortent encore plus qu'avant.
Écoute, soyons sérieux, là. En ce moment, le confinement, la COVID, peu importe le superlatif que tu prends, c'est la pilule que ça a pris pour nous faire avaler l'État policier, là. Et on l'a intériorisé, là. On n'a pas de police dehors, là. On n'est pas comme en Chine, mais on regarde les autres. Il a porté un masque. Est-ce qu'ils sont à 2 mètres? Là, je sors, j'ai peur. Tu sais, je vais pas voir ma belle-mère parce qu'elle a 84 ans. Tu sais, on l'a tout intériorisé. La délation. Hey, mes voisins, ils sortent dans la cour. Ben, oui, mais ils vivent ensemble. C'est pas grave, là, tu sais. Tannant.
C'est quoi, ceux-là? Ils ont l'air heureux, eux autres.
ils ont pas l'air de vivre dans la peur, puis ils vivent une vie normale.
Quoi? C'est ça. Alors, oui, ça perturbe tous tes référents. C'est normal. Par contre, de remettre les deux pieds sur terre, de dire, attends une minute, là, qu'est-ce qui est important? Surtout, écoute, le déconfinement commence, là. Il s'en vient, là. Moi, je suis un grand tenant du déconfinement. Je veux que ça arrive, pas n'importe comment, bien structuré, en commençant par les populations les moins susceptibles d'avoir les formes graves, alias les enfants. Mais encore là, tu sais, si ton père ou ta mère, c'est quelqu'un qui fait de la bronchite chronique puis qu'il a déjà un pied dans ton, peut-être que l'enfant devrait pas aller à l'école tout de suite.
Ouais, c'est ça, c'est moi ce que je trouve bizarre avec ce déconfinement là, c'est que je m'attendais à ce qu'on le fasse quand la courbe allait être aplatie, ce qui est pas arrivé, ou quand on aurait franchi le pic, puis on semble être encore dedans. Est-ce qu'on est trop tôt ou peut-être
non,
trop
on est
tard,
pas trop tôt.
Parce qu'on aurait dû faire peut-être comme la Suède puis faire
ne jamais confiner comme
comment?
La Suède n'a pas confiné, hein?
Non, c'est ça, eux autres, ils ont misé sur l'immunité de masse. Est-ce qu'on aurait dû faire ça depuis le début? Puis là, on parle de le faire maintenant, mais là, est-ce qu'on le fait trop tard? Est-ce qu'on l'a confiné pour rien?
Je vais te donner ma compréhension. Je ne suis pas un épidémiologiste, je ne suis pas M. Arruda, je ne suis pas Mme McCann, qui fait un travail admirable, même si ça passe sur en troisième. Là. L'idée d'aplatir la courbe, et on a raté une bonne partie de l'objectif, c'est de réduire l'achalandage à l'hôpital, ce qui fait que les gens vraiment malades qui en auront vraiment besoin auront des services.
Ah, pour pas qu'il arrive comme en Italie où on a dû faire des choix parce qu'il a fallu consacrer des machines, des respirateurs aux
Bingo.
Patients les plus loin. Il a fallu faire des choix puis laisser mourir des gens, là.
C'est exactement ça. Et c'est le seul et unique but. Ce n'est pas de réduire la proportion de la population qui va attraper la maladie. C'est de ralentir la progression pour qu'elle soit gérable. C'est la seule chose qu'on pouvait faire et c'est ça qu'on a fait. Puis quand je dis qu'on a raté la cible, c'est que pour une raison X, ben les CHSLD ont pas été bien protégés, fait que là ça meurt comme tu sais, ça tombe au vent là. Et ça c'est complètement dramatique. Puis t'as bien des CHSLD qui n'ont pas de COVID, mais c'est devenu des prisons. Mmh. C'est des prisons à vieux, c'est l'horreur. Alors la notion du déconfinement, c'est de dire, écoute, l'inévitable, c'est qu'une proportion grandissante de la population va l'avoir. Aussi bien avoir assez de monde sur un délai X pour qu'on atteigne cette fameuse immunité de masse, parce que toutes les épidémies de la planète ont fonctionné comme ça, atteint un certain pourcentage, ben là, la bébite, elle frappe des murs partout, puis elle a fini par disparaître.
Dans le fond, l'immunité de masse, c'est toujours ce qui vient à bout des épidémies, puis la vaccination, c'est juste une façon accélérée d'en arriver à cette immunité.
On peut le voir comme ça, oui. Okay. On peut le voir comme ça, tout à fait.
Dans le fond, là, la courbe, là, c'est qu'elle a été mal expliquée. La courbe, c'était pas de faire en sorte qu'il y ait un moins grand pourcentage de gens qui l'atteignent, qui soient atteints. La courbe, c'était de permettre à ce que le fait que les gens l'aient, prenne plus de temps sur un timeline pour que le système de santé puisse l'absorber. C'est ça, dans le
fond. Je dirais plus qu'elle a été mal comprise que mal expliquée, parce que c'est exactement ça que Arruda a dit, puis c'est exactement ça que moi j'ai dit. Bon, je suis un mineur joueur, mais j'ai quand même 200 000 personnes qui m'écoutent, c'est fascinant. C'est ça. Alors, c'est vraiment la notion de tout ce qu'on fait, là, lavage de mains, distanciation, masque, blablabla, confinement, c'est ralentir la progression pour qu'elle soit gérable. Bon, pas l'empêcher, non. On n'est pas capable.
Ben non, c'est ça. Moi, c'est ça que je dis depuis le début. La mathématique d'un virus ou d'une pandémie est implacable. Là. Tu ne pourras pas battre le chiffre. Ce que tu
ben, en fait, battre, oui, on bat le chiffre, pas le virus. Pour répondre à la phrase de tantôt, c'est que on a commencé à parler du déconfinement. On est sur la pente descendante en termes de contamination sociale. Là où on a un problème, et c'est pour ça que le déconfinement, il faut qu'il prenne son temps et qu'on ne le va pas en vrac, c'est que les foyers importants, les CHSLD, les décès sont importants, mais est-ce qu'on beaucoup plus de nouveaux cas. Écoute, le monde qui travaille là-dedans, ils font le job, là. Les hôpitaux commencent à saturer. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite. Mais en termes de nouveaux cas dans la société, ça va pas si pire.
C'est mieux, là.
Admettons, une personne comme moi, là, je vis avec ma blonde, on est deux adultes, là, entre 20 et 40 ans. Et, quelle stratégie on devrait adopter? Est-ce qu'on continue de se laver les mains à toutes les fois où on regarde un oiseau suspect? Ou si on se dit, ben, je fais plus attention, je vois le pogner, puis après ça, je serai immunisé, puis la paix, tu sais, vu qu'on n'est pas à risque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ces mesures d'hygiène-là excessives? Ou si on dit, je reprends ma vie comme avant, puis je la pognerai, mais que je la pogne, puis ça sera fait?
Bon, la notion de l'hygiène, j'espère qu'on est en train de prendre des bonnes habitudes, genre se laver les mains avant de manger, en sortant de la toilette. Quand on va à l'extérieur puis qu'on rapporte quelque chose, c'est des habitudes qui devraient en grande partie rester. Et non, ça ne s'attrape pas par le regard. Si tu savais le nombre de personnes... Tu sais, moi, dans mon quartier, on va prendre des marches pour les autres. Non, mais tu le vois. C'est-à-dire que moi, là, j'ai un sourire d'en face, puis je dis bonjour au monde, parce que je trouve que j'en ai besoin, puis que ça fait du bien à tout le monde quand on se dit bonjour avec un sourire. Mais là, il y a des gens qui me répondent pas, puis qui regardent à terre. Puis on est, c'est chacun notre bord de rue, là.
Ouais, c'est tellement vrai, ça. Hey, Jean-Yves, je suis en plein centre-ville de Montréal, puis le monde, en premier coin, ne te regarde pas.
Mais non, ça s'attrape par les yeux. Non.
Moi, je suis dans le coin de la je suis pas confronté à autant de rencontres humaines ces temps-ci, surtout que c'est pas mal mort ces temps-ci.
Oui, mais les rues sont pas mal vides, t'as bien raison, là.
Pas même, alors, même sans pandémie.
Pour répondre. Ouais. Ouais, c'est une autre histoire, ça. Ouais. Mais pour répondre à ta question, la notion de tout laisser tomber, si on commence à répandre ça comme message, il va se passer un problème, il va y avoir trop de cas sévères qui vont apparaître.
Ouais, parce que si moi je l'attrape, mais je finis par être en contact avec une personne qui est vulnérable, puis elle se ramasse à l'hôpital, ça va contribuer à engorger.
C'est ça. Alors, par exemple, aujourd'hui, je sais pas à quelle date nous on va passer dans vos affaires, mais le 30 avril, j'ai fait un Facebook Live où je parlais justement des facteurs de risque, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, par exemple, un des facteurs de risque principaux, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est le fait de manger trop de sucre, trop de glucides, trop de farine, trop de féculents. Et ça m'amène physiquement à faire soit de l'embonpoint puis qui va m'amener peut-être à l'obésité ou au diabète de l'autre bord. Ben, sachez que 88% des Américains sont en résistance à l'insuline et on estime chez les Canadiens quelque chose comme 70% des hommes et 60% des femmes. Alors, et ça, c'est le facteur de risque principal pour avoir la forme sévère.
Imagine.
Alors, si les gens le savent pas et continuent à manger de la chenoute de dépanneur, des aliments sucrés, transformés et compagnie, puis qu'ils font pas attention, tu risques d'avoir plus de cas sévères. Si les gens commencent à prendre conscience que ce qu'ils mangent a un impact et que leurs habitudes de stress et autres ont un impact sur leur immunité, ben tu as des chances d'avoir plus de monde qui le pogne de façon bénigne. Et c'est ça qu'on veut.
Moi, Frank, si tu me permets, moi, j'ai la question qui tue, je pense, là. Écoute.
OK, on va clore là-dessus.
Ouais, ben, c'est ça, là. Jean-Yves, moi, il y a quelque chose que beaucoup de gens font, puis c'est pas tous des conspirationnistes, c'est des gens que je connais, puis tout ça, puis j'ai débattu beaucoup avec eux autres, puis ainsi de suite, puis ça me dérange, peut-être que ça devrait pas, je veux entendre ton opinion là-dessus. Les gens qui comparent le taux de gens atteints par mille, par peu importe, au niveau de la population, ça, je peux comprendre, c'est une métrique, puis tout le monde a la main. Mm-hmm. Moi, c'est ceux qui font des comparables avec la grippe. Je suis très conscient, Jean-Yves, qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent de la grippe au Canada annuellement. Je suis très conscient de ça.
Oui.
Que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, que, tu sais, écoute, là, puis probablement plus du côté de nos aînés que d'un homme ou d'une femme de 35 ans, là, on va s'entendre.
On est d'accord.
Est-ce que je suis normal de trouver à ce stade-ci que c'est une comparaison qui me dérange?
En fait, tu as raison d'être dérangé par la comparaison. C'est une bonne comparaison, mais c'est une comparaison qui est prématurée. Okay. Au sens où il y a des gens qui ont pris les chiffres de CDC aux États-Unis, les mortalités annuelles ou mensuelles de la grippe, et comparent avec les mortalités de la COVID actuellement. Ils disent « Ah, c'est pas aussi pire que… » Attends une minute, là. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les mortalités dites de la grippe ne sont pas toujours des gens qui sont morts de la grippe. Au sens où il y avait peut-être le virus, mais ils sont morts de d'autres choses. Un peu comme bien des gens qui meurent de la COVID, sont-ils morts de la COVID ou c'est juste la pichinotte qui les a poussés parce qu'ils étaient déjà sur le bord du précipice? Personne ne le saura jamais. Alors, quand je dis que c'est une bonne comparaison, mais prématurée, dans un an, on pourra comparer les décès des différentes années et de ce nouveau virus-là. Et là, on pourra tirer une conclusion au total. Parce que pour l'instant, les chiffres qui sortent, le taux de décès là, chez les gens atteints tourne autour de 0,66%. L'influenza, les années habituelles, c'est 0,1. Donc, on serait 6 fois plus dangereux. Mais vous admettrez que je suis en bas de 1% dans les deux cas.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Mais si un mort, c'est un mort de trop. Là où il y a un problème aussi quand tu compares deux choses comme ça, c'est de dédramatiser quelque chose hors contexte. Parce que, étant donné que c'est un nouveau virus, hein, puis là, vous pouvez m'amener sur le territoire comme on a fait pour le VIH, d'y vient d'où, puis de la conspiration, puis de gna. On va s'amuser un petit peu, là.
Mais, on va perdre une autre demi-heure aussi.
On va faire un autre là-dessus. Mais il est là. Mais pour mon système immunitaire et celui de la planète, il est nouveau. Et on ne sait pas comment la réaction va se faire. On va la comprendre quand l'épisode sera fini. Là, on observe des cas aigus, des cas dramatiques, c'est la hypercoagulation, la tempête d'inflammation, les poumons qui s'écrabouillent tout seuls. Il y a plein de choses comme ça qui apparaissent. Puis, on n'a jamais vu ça avec l'influenza, là. Ouais, ben, la tempête de cytokines, oui, mais pas la même.
Quand je débattais avec ces gens-là, moi, ce que je leur disais tout le temps, c'est, ben voyons, là, tu sais, on connaît l'existence de ce virus-là puis ses conséquences, peut-être depuis quoi, novembre 2019? Ben, tu refais ton exercice en novembre 2020, là.
C'est ça mon commentaire.
Moi, c'est ça que je répondais. Parce qu'écoute,
de la même façon, moi, je pogne les nerfs quand on compare la grippe qu'on vit ces jours-ci ou ces années-ci avec la grippe de 1918, la fameuse grippe espagnole qui a tué des millions de personnes. Ouais, mais on a oublié une chose, là. Même si le virus était peut-être plus virulent, puis on va aller dans le monde des conspirations, peut-être qu'il était plus virulent parce que les ondes radio, mais peu importe. On a oublié une chose à la réflexion qui est primordiale. On est après la guerre. Et donc, tu as eu des gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la famine, qui ont vécu le rationnement. Et tous les pays où le nombre de morts est exponentiel, c'est des pays où on a vécu le rationnement et où la guerre en direct.
C'est ça, une population affaiblie. Puis en plus, on connaissait pas ni le fonctionnement, ni même l'existence du virus. Donc, on savait pas comment limiter ça. Fait qu'il y avait pas de mesures.
Bon, les mesures qu'on a mises aujourd'hui sont, aussi boiteuses soient-elles, le résultat de l'expérience de l'humanité. Mais en même temps, on n'est pas une population qui sort d'une guerre de 4 ans, nous, là. Là.
Non, au Québec, on est quand même plus ventru que
mais là, Jean-Yves, là, je m'excuse, je vais abuser. Je veux t'entendre sur une dernière chose, puis Frank, écoute, je dis ça, on va arrêter de dire dernière chose, là, puis il y a un moment donné...
Ça, c'est comme quand les gens me disent, j'ai une question pour toi, je te crois pas, t'as toujours plus que...
Ton opinion, en qualité de quelqu'un qui œuvre dans le domaine de la santé, sur ceux qui prétendent que les données qui nous sont fournies au niveau des décès, c'est une fraude statistique contre l'humanité qui mériterait d'être fusillée sur le champ.
Très bien, t'as bien fait de soulever ça.
Si et seulement si la carabine ou la mitraillette est des deux côtés en même temps.
Ben, c'est ça. Bon.
OK? Bon.
Les deux barres ont raison, finalement. Là. C'est ça. Là.
C'est que les chiffres... Le problème, c'est les médias qui nous garochent des chiffres qui font plus peur qu'expliquer et qui entretiennent la peur. Puis ça, à mon avis, c'est presque criminel, c'est dangereux. Mais il y a erreur pareille dans ces chiffres-là. C'est-à-dire que la prémisse de tout ça, c'est le nombre de cas. On ne l'aura jamais. Ouais, parce que les tests sont... sont effectués chez des gens symptomatiques.
On fait pas de tests post-mortem, puis on attribue aussi des décès de gens qui sont...
Le post-mortem, je vais retenir un peu, parce qu'habituellement, quand on attribue un décès au COVID, c'est parce qu'il était à la place pour le savoir, puis on savait d'avance. Fait que peut-être qu'au CDC, c'est pas tout à fait vrai, mais au Québec, c'est comme ça que ça marche. Okay. Fait que, oui. Mais là où la proportion des décès par rapport au nombre de personnes qu'il a, qui est la statistique que moi, je veux savoir, je l'aurai jamais, parce que les gens non symptomatiques dans la rue ne se feront jamais tester. Deuxième chose, pour avoir un portrait global, il faudrait tester tout le monde, mais pas pour le virus. Pour le test sérologique, les anticorps. Comme ça, on serait capable de déterminer X % de la population l'a eu. Et c'est pour ça que parler juste du nombre de décès ou du pourcentage de décès, c'est biaisé. Il en manque un morceau pour la réflexion. Et c'est là où on arrive à un problème.
Comme n'importe quelle statistique, ça il y a une marge d'erreur aussi. Puis aussi, on peut pas. Quand on prend la peine aussi de dire voici pas le nombre de cas au Québec, voici le nombre de cas confirmés au Québec.
Ben oui.
C'est pour ça qu'on prend la peine de rajouter le mot confirmé. C'est parce qu'on saura jamais avec exactitude le nombre de cas, parce que comme vous venez de le dire, c'est pas tout le monde qui sont testés. Ceux qui sont asymptomatiques ou qui ont les symptômes légers, ils sont pas recensés là-dedans. Fait que, d'une façon ou d'une autre, il y a pas de façon, si je comprends bien, d'avoir les vrais chiffres, là.
Ben, c'est pour ça que c'est tellement
pas une fraude,
complexe
c'est une marge d'erreur.
C'est une réalité. Tu sais, je vais faire un parallèle avec une autre statistique qu'on se fait garrocher assez souvent. Tous les foutus sondages qui nous passent à la TV sur n'importe quel sujet, là. Tu sais, le nombre de personnes qui votent pour telle affaire, le nombre de personnes qui achètent. C'est toujours fait sur des échantillonnages statistiques de la population. Et on va toujours te donner les chiffres avec ces 30% de la population, avec une marge d'erreur de genre 3%, et 19 fois sur 20. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que mon échantillonnage, il est bon dans une certaine strate de la population, mais je ne peux pas l'extrapoler au reste de la population 100%. Il y a toujours un risque d'erreur. Le 19 fois sur 20, c'est qu'une fois sur 20, je suis dans le champ. Tu sais, l'ADQ a été élu à l'époque avec des sondages défavorables. Bon.
Les sondages, c'est un outil de propagande plus qu'autre chose. Puis étrangement, ben c'est peut-être comme ça justement
Tu viens de dire un outil de propagande. Tu es en train de tomber des conspirationnistes, toi, là?
En politique, oui, monsieur. Non, mais en politique, souvent, on remarque étrangement, le sondage favorise toujours le point de vue de celui qui l'a commandé. Est-ce que peut-être qu'on fait ça en choisissant la strate, tu sais, la strate de personnes sondées dans le but d'avoir un résultat voulu? Moi, les sondages, j'ai beaucoup de misère avec ça. Parce que tout le monde est numéro un à radio. Tous les politiciens sont favoris. Toutes les options constitutionnelles sont favorites, dépendamment qui a commandé, payé le sondage.
Ben oui, puis tout est en fonction. T'sais, si je te dis, je te pose la question dans un sondage, qu'est-ce que tu préfères comme souverain du Canada, Donald Trump ou la reine d'Angleterre?
Ben...
Alors, 99% des Canadiens préfèrent la reine d'Angleterre.
Je sais pas.
Ben, voilà.
J'ai eu un problème d'Internet, mais je suis de retour, puis ça m'écœure, parce que j'ai manqué probablement le bout qui m'a intéressé.
Le meilleur bout, Martin.
Je veux conclure sur quelque chose par rapport à la question que je t'ai posée, puis la fraude statistique, Jean-Yves. C'est que moi, ce qui me dérange, c'est pas les gens qui se questionnent. c'est les gens qui affirment des choses, mais qui sont pas capables de nous donner une théorie sur le but de cette chose-là. Genre, là, c'est pas toi qui dis ça, Jean-Yves, c'est moi, OK? Radio-Québec sort la fameuse vidéo à l'effet qu'il y a une fraude statistique, c'est un crime contre l'humanité, il faudrait que ça soit, écoute, là, on a brûlé la Convention de Genève avec ça, là, mais tu me dis pas pourquoi qu'ils font ça. Tu fais juste me dire, hey, c'est grave, hey, c'est grave, hey, c'est grave, hey, c'est une fraude, hey, c'est criminel, hey, c'est une fraude. Moi, je dirais pause, Alexis, pèse, pause. OK, Master, pourquoi tu penses qu'ils font ça?
Ce n'est jamais... monde pour qu'ils acceptent la vaccination massive, Martin, avec les puces de Bill Gates.
Non, mais attends un peu, Frank, je m'en allais m'auto-répondre. On sait tous que la raison pour laquelle ils prétendent ça, c'est pour pouvoir dire après ça qu'on se fait mettre dans des enclos, puis qu'après ça, on va se faire forcer à être vacciné, puis que là, ben il va avoir mind control, puis on va être contrôlé par les pédosatanistes. Tu sais, si tu comprends. Mais ça, c'est jamais adressé. Tu comprends? Il n'y a jamais de contrepartie dans son show qui dit « OK, Alexis, écoute, j'ai écouté tes théories, tu es bien correct, mais là, à cette heure, non, what the fuck? » Tu sais, oui. Non, c'est jamais adressé. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Une fois que ça va avoir été passé, le déconfinement va être fini, puis tout ça, ben ça va être un autre gimmick. Il ne reviendra pas là-dessus. Là. Ça va être une autre affaire qui va créer...
La même affaire que les gérants d'estrade au sport, tu sais.
Ben, totalement.
Comment faire gagner les Canadiens, eux autres.
Ils sont tous meilleurs que Carey Price, tu sais.
Ah oui, puis... Ils sont tous meilleurs que le coach, en tout cas. Eux autres, ils sauraient qu'est-ce qu'ils feraient pour faire gagner ce club-là. Moi, je mettrais lui à l'aile, puis je changerais lui, puis...
C'est la même affaire. Alors, t'as... énormément de gens qui vont partir de données partielles, qui vont surtout partir avec une affirmation, tu sais, ex cathedra, c'est comme ça, parce qu'un tel le dit, mais le un tel, c'est son opinion basée sur des faits partiels, et en toi pis moi, là, des nuances, ça vend pas. Alors, le poste de TV, le journal, ils sont tous là, puis là, je vais faire très conspirationniste, ils sont tous là pour une chose, augmenter la cote d'écoute.
C'est clair, c'est sûr.
Du scandale, de l'opinion partielle, puis je vais vous nommer quelqu'un que vous adorez tous, puis moi je l'aime bien de d'amour vrai, c'est Richard Martineau.
Ah ben là, écoute.
Il s'amuse. Moi, j'ai côtoyé en studio pendant 2 ans, puis c'était tellement... J'ai dit, de quoi tu te fâches aujourd'hui? Puis là, il me sort son affaire. Parce que c'est vraiment ça qu'il fait.
Il vend la copie.
Il y a eu, il s'appelait lui, un animateur à 98.5, qui a maintenant pris sa retraite, puis fait dans le voyage, il s'appelle...
Ah, Gilles Proulx.
Ben moi, je l'ai rencontré à un moment donné, puis il rentre dans le studio, puis on jase avec, puis à un moment donné, c'est là que je rentre, c'est l'heure d'aller faire fâcher le bon peuple.
Ah, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Gilles Proulx aussi, il est très candide face à son rôle, mais en même temps, c'est quelqu'un de super intéressant, un féru d'histoire.
Hein? Ah ben oui, absolument. Hey, mais là...
Ici, c'est de faire fâcher le peuple, puis que c'est sa cote d'écoute en dépend. Fait que voilà.
Il est pharmacien, conférencier, blogueur, auteur, podcaster. Vous pouvez le suivre sur Facebook, sur Franchement Santé, aussi disponible sur H2O pour le podcast. Jean-Yves Dionne, merci d'avoir été avec nous dans le crachoir.
Écoute, ça m'a fait grand plaisir. On pourra recommencer ça quand vous voulez.
Oh, dis-nous pas ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci, Jean-Yves.
Merci, Jean-Yves.
Au revoir.
Salut.
Le crachoir.
Michou est monté dans un grand pommier. La branche a cassé. Michou est tombé. Où donc est Michou?
Michou est en bas. Michou, c'est Michou.
Michou est sur le dos. Oh, relève, relève, relève. Oh, relève, relève, Michou.
Simon, comment vas-tu?
Salut! Ça va, toi?
Ben oui, ça va bien. Écoute, je te sens dans des meilleures dispositions que la semaine passée. Écoute, la semaine passée, je sens que tu étais très affecté par la chronique que tu as faite, les tunnels et tout ça. Tu étais dans le dark, là, hein?
Ben, étant moi-même père de famille, quand j'entends des trucs comme ça, ça vient me chercher, c'est sûr. On sait bien que c'est de la fabulation, mais quand même que quelqu'un pense à inventer des trucs comme ça, moi, ça me le tente.
Écoute, c'est... en tout cas. Et parlant de couilles, écoute, je t'ai donné une mission. Je t'ai donné une mission la semaine passée. Je t'ai confié un mandat qui... Écoute, bon, réglons tout de suite une chose, là. C'est pas équitable de ne faire qu'un top 3. Parce qu'on aurait pu faire facile, depuis 2 mois, un top 50. Mais je t'ai mandaté à nous trouver le top 3 des publications slash théories slash affaires à coucher dehors, conspirationnistes, pédo-satanico-mondialo, pas d'allure. Sur la star, écoute, la vedette actuellement de ce mouvement de capoté, et j'ai nommé ici Julie Couillard. Fais-nous part, s'il te plaît, Simon, de ton top 3 de Julie.
Avec grand plaisir, Martin. Comme tu l'as mentionné, là, c'est pas compliqué. Là. La vie de Julie Couillard est un top infini d'affaires qui n'ont pas d'allure. Ça, c'est l'effet Bernier. Hein.
Non, on peut pas dire tout soon. Là. Ça fait un bout. Là. Ça fait plus que 10 ans. Non, là.
Qu'est-ce que le gars laisse des séquelles partout où il passe? Attaquons-nous à la belle Julie. En partant, j'aimerais saluer le partage très intéressant de notre amie Julie Couillard. Mais en fait, c'est un repost qu'on peut voir sur son fil. Céline Dion serait une sataniste, Martin.
Pas Céline.
Ben oui, Céline est dans le complot aussi. C'est tout ce qui est COVID-esque. Ça fait partie de la lignée. J'ai l'impression que dans 2 semaines, on va apprendre que c'est une Rothschild.
Ouais.
que René Charles est reptilien. On va y arriver.
Mais déterminons d'une affaire, sauf erreur de ma part dans ton enquête, tu me corrigeras. Mais tu sais, elle ne crée rien. Ou presque rien. Pas. Elle riposte des trucs.
Oui, la plupart du temps, c'est du repost. Mais ce qui est beau dans cette vidéo-là qu'elle a postée, qu'on va probablement partager,
ben oui,
c'est que
sûr.
Dans le fond, c'est un gars qui fait l'analyse d'une vidéo qui a été lancée sur le web avec Céline dedans, qui démontre clairement que c'est une sataniste, qu'elle se nourrit de la puissance des enfants, puis qu'elle porte des casques de brebis avec des cornes.
Ouais, le malin, en fait, là, je pense. Là, c'est
oui,
ça,
le
là.
Malin, c'est ça, là. La fameuse brebis que tu retrouves là, dans le milieu des étoiles sataniques.
OK, fait que là...
Mais, dans le fond, toutes les preuves que le gars prend pour démontrer ça, c'est juste le clip d'une toune de Céline, Martin.
OK, fait que c'est une analyse.
Il n'y a pas une caméra cachée dans un sous-sol d'église. C'était sur MTV, Colis.
OK, fait que lui, le gars, ayant fait une analyse qui lui permet de déterminer qu'elle est une sataniste.
C'est ça, tout simplement. Mais son analyse, c'est « regarde les images que tout le monde a regardées
».
C'est parce que nous autres, on est des sheeple, fait qu'on n'a pas vu les messages.
Mais là, ça veut dire que ce gars-là, t'imagines-tu s'il regardait une vidéo de Black Sabbath?
Ah, ta gueule! Je suis sans mots, je suis bouche bée. Mais chose certaine, le gars qui fait ces analyses-là, c'est un autre qui travaille là pour... Le génie civil à 800 piastres par mois. Là.
Bon.
YouTubing. Ouais, c'est ça.
Le génie civil. OK, fait que numéro 3, Céline est devenue une suppôt de Satan. Ouais. Parfait. Number 2.
Son fameux vidéo de la 5G, Martin.
Ah.
Parce que Dieu sait que COVID de ces temps-ci égale 5G.
Mais là, Simon, j'ai une question, là, ton interprétation, OK? Je vais essayer de le faire le plus vite possible. Moi, j'ai partagé des tweets à l'effet que Donald Trump a mentionné qu'il était pour la 5G, que ça prenait de la 5G partout, que s'il y avait de la 6G, c'est ça qu'il voudrait. Faut qu'on compétitionne avec tout le monde. Faut que les États-Unis soient les meilleurs. Là, Julie Couillard, qui est une avocate avouée de la thèse de QAnon, du fait que Donald Trump a été mis en pouvoir pour faire le ménage auprès du ring pédo-satanique mondial.
Oui, clenché à moitié de la population.
C'est ça. Fait que là, elle a partagé une publication à l'effet que la 5G, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis tout mélangé. T'as pas besoin de faire des recherches, Simon. Je confirme ce que je t'avance, là. J'ai publié sur ma page personnelle et sur le ménage du dimanche 2 tweets consécutifs de Donald Trump qui dit « ça prend de la 5G, let's go. »
Si on peut en avoir de la 6, de la 7, c'est le meilleur dans tous les départements, absolument.
Puis là, Julie, qui est une pro-Trump à côté, elle partage une publication qui dit au monde « Hey, touchez pas à ça, la 5G. »
On a les tests pour prouver que la 5G est mortelle pour le vivant. Empoisonnement par les ondes à rayonnement électromagnétique.
The Dawn, es-tu en train d'envoyer le monde à l'abattoir?
C'était pour ça, Martin, le confinement. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est tous pognés chez nous. Fait que pendant ce temps-là, on voit pas les messieurs se promener avec des petits poteaux 5G, planter ça un peu partout. C'est quand on va sortir du confinement, strac!
Ah.
On est comme dans un micro-ondes, Martin.
Fait que number 2, c'est Julie a dit à cause d'une vidéo que c'est pas bon pour le vivant. Précisons ici que le vivant est écrit avec un V majuscule. Donc, Julie Couillard peut maintenant se permettre de parler de l'humanité à la première personne. On est rendu là. Plutôt à la troisième personne, je m'excuse. La première personne,
moi, c'est
elle.
Vivant, je suis
elle. Ouais, tu vois, même moi, elle vient qu'elle me mélange. Et là, Simon...
Non, mais ça, tu vois, c'est quoi ça, Martin, là? 5G qui commence à rentrer.
Oh, ta gueule! Bon, roulement de tambour.
Mesdames et messieurs, je vous invite à faire comme la population canadienne, soit 26 personnes, à signer la pétition pour que le gouvernement de Justin Trudeau soit renversé par les forces armées canadiennes.
Un appel au putsch, hein? Un appel à un coup d'État.
Oui, oui, carrément.
Mais là, on a découvert, parce que quand tu m'as mis au fait de tout ça, puis j'avais vu des trucs passer, on a découvert une espèce d'arnaque potentielle, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai devant moi une adresse web qui mène vers cette pétition-là en anglais, qui s'appelle oui. Overthrow Trudeau Government by Canadian Armed Forces, qui commence par un rutilant following, écrit F-A-L-L-O-W. Et cette pétition-là a 11 signatures. Je vais oui. sur le pendant francophone. Pétition oui. renverser le gouvernement de Justin Trudeau par les forces d'armée canadiennes. Un champ de mine de fautes de français d'en ouais, faire de quatrième année.
Les forces d'armée.
Ouais, les forces d'armée canadiennes. Si je l'avais pas vu celle-là.
C'est la plus belle, selon moi.
Mais celle-là a 26 signatures, Simon. Oui. Complot!
What's up with that?
Complot! Dédoublement de pétition. Simon, faut que je te lise de quoi? En français. Suivant les preuves recueillies au sein d'un document, Scenarios for the Future and Technology and International Development de l'Organisation mondiale, ainsi que plusieurs articles d'investigation journalistique de la part de Civilian Intelligence Network. Intelligence écrit
I-N-T-E-L-E-G-E-S.
Comment peux-tu avoir l'air crédible si tu n'es pas capable d'écrire le mot intelligence?
Ouais.
Et là, maintenant, la cause...
Attends, moi, ma question oui. par rapport à ça, Martin, c'est qui sont dans la CIN?
La Civilian. Oh, moment. Là, attends, faut qu'on lise ça. C'est important, Simon, la démocratie.
Les gens ont le droit de savoir.
La cause... Preuve irréfutable de détournement, collusion et vol de fonds publics de l'ordre de plusieurs milliards de dollars, toujours en cours. Conspiration. Elle accuse quelqu'un de conspiration. C'est hot en esti, ça. OK? Négligence grave causant la mort et haute trahison de la Constitution canadienne ainsi que contre le peuple canadien. Voir preuve, source et référence 6 juin. S.I. juin. Je laisse le soin aux Canadiens et Canadiennes de downloader et lire le document. Les articles investigatrices en preuve, sources et références étoffées au singulier, ci-bas. Scenarios for the Future of Technology and International Development de l'ordre mondial avec un fucking E.
Ben oui, c'est une ordre mondial. C'est comme une ordre de toast.
Écoute, Simon, attends une minute.
OK.
Notre but est d'obtenir un maximum de signatures le plus rapidement possible afin d'inciter A-I-N-S-I-T-E, accent aigu, l'action des forces armées canadiennes le plus rapidement possible avant qu'il soit trop tard. Vous comprendrez en lisant, on se doit d'arrêter l'hémorragie et sauver... Faut arrêter l'hémorragie et sauver notre pays et notre liberté. Sauver écrit qu'un accent aigu.
Mais tu vois, je peux quand même l'écrire, vous comprendrez en lisant. C'est pas sûr qu'on va
déjà, juste la langue française.
Pas d'hémorragie là. Et où l'hémorragie? Faut-tu amener des M-condons pour aller là?
Faut arrêter l'hémorragie.
L'hémorragie, oui.
Écoute, Simon, on récapitule, OK, top 3.
Oui, oui, oui. Ah oui, il faut que les gens... Numéro 3! Évidemment, la vidéo de Céline qui est nouvellement sataniste. Mais en fait, sataniste avoué, parce que son vidéo est disponible sur MTV, donc...
Voilà.
Hein? Numéro 2! On retrouve la vidéo que, Dieu merci, Julie a trouvée sur Internet, sinon on aurait été dans la merde. Mais comme elle fait partie de l'intelligence, en tout cas. La 5G est mortelle pour l'humain, les tests ont été faits! Et visible sur YouTube. D'ailleurs, c'est présenté par Caroline Fontenoy.
Ah oui, Caro.
Ben oui, la belle Caro. Numéro 1! Puis c'est toujours d'actualité, hein? On vous invite à signer la pétition pour renverser le gouvernement de Justin Trudeau par les forces d'armée.
Faut stopper l'hémorragie, ça presse! Hey, Simon, j'ai déjà ta prochaine mission.
OK, vas-y.
Ouais, là, je pense qu'il est temps qu'on s'attarde un petit peu à notre chère Lucie Laurier.
OK, je suis d'accord avec ça.
Hey, Simon, donc on va te laisser aller travailler sur ton enquête de Lucie Laurier pour nous amener un nouveau top 3, bien sûr. Et encore une fois, un gros merci de ta contribution, mon cher.
Je m'appelle Claire, j'aime nettoyer, astiquer, frotter, tout faire prier. Et je fredonne ce petit air pour me rappeler tout ce que je dois faire. Je me lave le visage et les pieds, les mains avant de manger.
Le crachoir, épisode 106. La semaine passée, on vous a promis de repasser un des meilleurs, sinon le meilleur mash-up de l'histoire du crachoir. Mais avant, il faut permettre à Martin de mettre son chapeau de God the Prod et de faire la petite poutine.
Ben, avant de la faire, je veux dire très officiellement, merci beaucoup à Jean-Yves Dionne.
Oui.
Merci
très généreux de son temps.
Absolument, merci de sa générosité. Je le savais, évidemment, je collabore avec lui sur d'autres affaires, puis on va en parler un petit peu, mais je savais que c'était la bonne personne pour la façon dont il vulgarise les choses, bien qu'il y ait beaucoup de termes techniques puis tout ça, puis c'est un gars qui a de l'opinion. Fait qu'écoute, merci Jean-Yves, si t'écoutes
ce que j'ai trouvé intéressant, excuse-moi Martin, ce que j'ai trouvé intéressant, ouais, c'est qu'il n'est pas le porte-étendard du message gouvernemental. Il est totalement indépendant dans son analyse et dans ses explications. Il est pas... parce que, tu sais, c'est... On en a parlé dans l'entrevue, mais dans bien des cas, quand il y a un sujet, puis que les gens sont très polarisés, puis des pour, des contre, comme les vaccins. Pour tous les vaccins, contre tous les vaccins, les deux ont tort. Puis entre les deux se trouve un monde de nuances dans lequel navigue avec beaucoup d'habileté et de professionnalisme Jean-Yves Dionne. Puis j'ai vraiment trouvé ça fun, rafraîchissant de l'entendre, parce que c'est différent de ce qu'on entend à la fois du message officiel des autorités et évidemment très, très différent de ce qu'on entend de la part des conspirationnistes, puis il y a des crackpots qui s'inventent des posts sur YouTube avec des vieux noms de posts de TV.
Puis je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais tu sais, ça aurait été facile pour lui parce que j'y avais très bien expliqué ce qu'on fait, puis c'est quoi le crachoir, puis ainsi de suite. Mais ça aurait été très facile pour lui de justement tomber dans le piège de dire ce qu'on veut entendre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, on a parlé de la 5G, tu sais. Ben, il est pas arrivé puis dire « Ah, ben écoute, moi, j'ai pas d'opinion sur la 5G », tu sais, parce qu'il savait que peut-être qu'on serait pas d'accord ou à tout niveau, tu sais, il dit même ça pourrait alimenter les conspirationnistes. Ben, c'est ça un scientifique, c'est ça quelqu'un qui est professionnel, c'est qu'il regarde, on revient
qui
au
est objectif, qui se pose des questions puis qu'il n'y a pas d'opinion établie avant d'avoir des faits.
Et voilà. Fait que merci beaucoup, Jean-Yves. Si vous voulez le retrouver, ben vous devez tout simplement taper n'importe où, Franchement Santé. Sinon, vous pouvez visiter son site web également, jydionne.com. Donc, jydionne.com.
Sinon, ouais, Franchement Santé sur Facebook, facile à trouver, puis sur Radio H2O.
Oui, absolument. Fait que là, ben écoute, oui, on arrive à la poutine administrative, bien sûr. Alors, si vous êtes en train, bien avant de nous écouter, pardon, sur Radio H2O en exclusivité à partir de 20h tous les jeudis, ben on vous dit un gros merci. Si vous aimez ce que vous entendez, ben n'hésitez pas à vous abonner parce que nous sommes également disponibles, bien sûr, en podcast. N'en déplaise aux amants de la langue française, le crachoir ne sera jamais un balado.
Non.
Et je vous t'attends. Frank, un gros sourire de Père Noël.
Non, ça sera pas un balado, puis je fais pas du roulis roulant.
J'avais tellement de ça. Un moment donné, Frank, je sais pas si c'était son truc à lui ou moi, il y a un gars qui dit là, tu sais, vous pourriez arrêter de dire podcast, balado, s'il vous plaît, la langue française, je vais toujours me rappeler, tu l'avais dit, ferme-moi ta gueule, linguiste du dimanche.
Collé, j'ai donc été poli. J'ai dit ça, vous ne pas fin.
Merde, j'avais ri fort, là. Tu sais, le gars arrive vraiment tout nu. Là, il faudrait dire là des balados, là, parce que là, les podcasts, c'est anglais, là. Il faut défendre la langue. Là, le linguiste du monde.
Le pire, c'est que, tu sais, la langue française, je m'en orgueillis de la connaître, de la maîtriser, puis de l'écrire assez bien, puis de l'exprimer. Mais je savais que pour cette personne-là, il fallait que je sorte mon pire français. Puis que, justement, le fait que je me suis efforcé au cours des années à toujours avoir une qualité de français respectable. Je suis pas Bernard Pivot, je pense que j'accepte pas de me faire faire la leçon comme ça, de haut, comme ça, à cause de l'utilisation d'un anglicisme, en plus de façon délibérée. C'est pas parce qu'on ne connaît pas le mot balado-diffusion, puis c'est pas parce que je ne connais pas le mot roulis-roulant ou cyclomoteur. Moi, un cyclomoteur, c'est un scooter. Un roulis-roulant, c'est un skateboard, puis une balado-diffusion, c'est un podcast. C'est des choix que je fais. C'est pas une méconnaissance de la langue, on a le droit de choisir le mot qu'on utilise.
Ben c'est ça qui était chiant dans son commentaire. C'est comme
si... Moi, je chantais qui était au teint. Fait que je vois, d'ailleurs!
Moi, on chiait!
Je me rappelle pas que moi, j'y ai dit, mais je trouve ça m'étonne pas que j'aie fait ça.
Puis avant de continuer, je vais évidemment dire merci à Simon Michaud, bien sûr, de sa chronique. Évidemment, écoute, vous l'entendez dans la chronique, on a ri, ça n'a pas d'allure.
Grosse semaine!
Ouais, c'est ça, un gros show. Mais comme je le disais tout à l'heure, donc si vous avez écouté sur ou vous êtes en train plutôt de nous écouter sur Radio H2O, vous pouvez vous abonner à notre podcast Le Crachoir sur toutes les plateformes qui disséminent des podcasts. J'ai nommé bien sûr Apple Podcasts, Google Play, Spotify et tout bon podcatcher Android. Sinon, ben écoute, moi j'ai bien hâte d'écouter ce mash-up parce que je le connais très bien, je l'ai écouté à satiété. Je pense que j'ai déjà même croisé une fille avec. C'est genre dans l'auto là puis tout puis ça avait quand même ouais c'est ça. Hey, t'as déjà entendu ça, là tu t'inventes un autre
tour. Pas dit sur ce ton là parce que la fille elle va débarquer aux prochaines lumières rouges. Hey, j'ai entendu ça, bébé. Hey, sugar tits, je ne touche pas toi.
C'est vrai que tout le monde me connaît comme un vieux mononcle, hein, ben oui. Mais
non. Non, mais c'était comme le ton avec le petit gras dans la voix. Écoute ça.
Ah ouais, hey, écoute ça aussi.
Ça tue le romantisme un peu. Mais oui, ce match-up-là, on pourrait dire un hit du crachoir. Je pense que c'est la troisième fois que je le mets, mais à toute fois qu'on en parle, on a le goût de l'écouter parce que c'est un match-up entre une toune de Police, Roxanne, et une toune de Scorpions, Still Loving You. Deux bonnes tounes.
Ouais.
Sauf que mis ensemble, ça devient une hostifie de bonne toune. Ça devient un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que les deux tounes ensemble, pis c'est rare que ça fait ça, sont meilleures que les deux tounes originales.
Donc, les deux mis ensemble, là, ça fait « Hey, tu as entendu ça aussi?
» Voici Police avec Scorpions Still Loving Roxanne. C'était le crachoir épisode 106. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. I love you since I knew you. I'm
membre de la famille H2O Web Media.